Bonjour à tous et bienvenue sur De Droite à Gauche, un podcast sur les mangas. C'est toujours Florimond, je suis avec Lucas et Mélanie.
Bonjour.
Salut.
J'espère que ça va bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, on va essayer de faire un peu plus court, un peu plus distrayant pour vous, un peu moins long à écouter parce que c'était un peu long le dernier, donc on va faire un effort. On va commencer par quelques news, Lucas.
Ok, alors du coup, c'est des news qui concernent les animés, puisque on a eu au cours du mois précédent et même ce week-end, deux petites actualités sympas, à savoir l'arrivée d'une grosse partie des films Studio Ghibli sur Netflix, ce qui permet donc de découvrir ou redécouvrir au choix un certain nombre de films. Je sais pas s'il y a tout déjà pour l'instant ou pas, je sais pas où ils en sont, mais il y a au moins peut-être une cinquaine de Miyazaki déjà.
Non, je pense qu'il y en a...
Il y a le Tombeau des Lucioles qui était déjà avant ceci.
Il y en a une quinzaine, je crois, de mémoire, et je crois qu'il y a encore une dernière vague à arriver.
C'est très possible du coup. Et autre grosse actualité qui pour le coup m'intéresse énormément, c'est l'arrivée de Jojo Bizarre's Adventure. C'est super relou à dire, je ne réessayerai plus.
C'est
sur Netflix
Jojo's.
Également. Exact, Jojo's Bizarre's Adventures. Il y a combien de saisons d'un coup? Il y a l'intégrale de ce qui existe en VO?
Non, donc les deux premières saisons, donc l'équivalent des trois premiers arcs.
Ok. Donc bon, perso, je me suis arrêté à la fin du premier arc et qu'on avait fini avec vous... La dernière fois qu'on a fait un podcast, c'est fou comme les choses se recoupent.
Oh, c'est dingue.
C'est magnifique.
Bah, ce soir, on fait le deuxième. Allez.
Complèche pas, j'ai envie de rentrer chez moi, vous demandez. mais du coup, voilà, je me suis arrêté là, c'était sympa. C'était pas forcément aussi ouf que ce qu'on me prédit, parce que comme vous l'avez dit, c'est pas la meilleure partie et que le reste est à venir. Mais c'était déjà très sympa. Je serais plus friand de lire le manga, même s'il y a tellement 120 tomes que ça me déprime. Mais voilà, en tout cas... Chouette truc à découvrir, et pour ceux qui connaissent pas, tu peux peut-être en parler très... Enfin, vous pouvez peut-être parler très vite fait de Jojo, on l'avait évoqué un tout petit peu la dernière fois, mais sans vraiment rentrer dedans.
Non, je crois qu'il faudrait une émission spéciale pour Jojo, c'est trop long.
Bon, je sais pas, le nom de l'auteur, tout ça, par exemple.
Ouais, mais sauf que je me souvenais plus, là, comme ça, sur le moment.
Donc on pourrait au moins parler vite fait, histoire de le rappeler, de l'auteur, à savoir...
Araki.
Voilà, et du coup ça dure depuis longtemps, genre 86,
je crois. 86 ou 87, ouais, 86 effectivement, je crois. L'année de départ aussi...
L'année de début, Senseiya.
De Senseiya et de Dragon Ball. Ouais, quelques mois après, environ.
Année au pire, mais c'est vraiment en même temps. Ouais. Et pour un truc, enfin, contrairement aux deux autres, ça continue toujours et ça a beaucoup évolué, surtout, entre-temps. Que ce soit en termes de narration, de visuel, surtout de visuel, je dirais, pour quelqu'un qui n'a pas lu, en tout cas.
Après, tu pourrais dire que Dragon Ball continue toujours, hein, c'est un
oui,
point de vue, quoi.
Mais Dragon Ball n'a pas beaucoup évolué, de ce point de vue-là, en termes de... Alors, c'est toujours plus gros.
Ah oui, vois, visuellement, genre, c'est vrai que
visuellement,
ça a
beaucoup resté très similaire, ouais. Peut-être plus beau, mais très similaire, et Senseiya... Est-ce que c'est devenu plus beau?
Non, alors là, Kurumada... je pense que tout le monde est d'accord pour dire que non.
Kurumada a juste pas changé, enfin, c'est ouf.
Non, sinon, il s'est devenu pire.
Je le pense pas, honnêtement, non. Après, le truc, c'est que la couleur et le trait un peu plus gras et la couleur lui fait presque une... Ça... Comment dire? Limite, il a l'air de faire moins d'efforts vu qu'il y a la couleur, je dirais. Mais non, ça reste son style, donc pour peu que... Enfin, ça n'a pas régressé, je dirais. Après, c'est juste qu'il y a eu tellement mieux que son style à lui que c'est ça qui est un peu frustrant, quoi.
Donc ça, c'était les news. Je pense qu'il y en a d'autres, mais qu'on a zappé.
Après, niveau manga, il y a eu des news aussi, genre des trucs qui vont arriver ou qui viennent d'arriver en France, dont on va vous parler plus tard, du coup.
Ouais, bien sûr. Il y a Gutanabe qui sort cette semaine ou la semaine prochaine.
C'est cette semaine, exact. J'avais oublié. Et ça, c'était un truc
dont la lumière venue du ciel.
C'est ça. Gutanabe, en fait, réalise depuis, je crois maintenant, quasiment 20 ans au Japon, des adaptations manga d'œuvres de Lovecraft. Donc réputé inadaptable parce que les visuels sont inadaptables, et pourtant on en a lu 2 en comptant le fait que le premier
c'est en deux parties.
Ouais, je cherche juste bon. Dans l'abîme du temps, c'est le deuxième, le premier que j'ai les montagnes hallucinées. Merci beaucoup Mel. C'était on a donc lu 2 séries pour l'instant et c'était très bon, je trouve. Et donc j'attends avec impatience de lire ce nouveau tome, donc la couleur venue du ciel ou tombée du ciel, qui arrive cette semaine, édité chez Kiun dans une toujours aussi jolie édition en simili-cuir. Voilà, et oui, grosse news pour ça, c'est vrai.
Et puis après on reparlera d'autres news, ou alors on en parlera dans la prochaine émission.
J'ai pas eu un coup de cœur perso, donc voilà.
Mais, ouais, ce sera sûrement encore un coup de cœur assurément. Aujourd'hui on va parler des coup de cœur, justement. Bien vu la transition, je l'avais pas noté.
Ah, oui, c'était totalement volontaire.
Mélanie.
Alors du coup, moi, mon coup de cœur, c'est Un oisillon sur le rivage, qui a été publié en 2018 chez Anna Collection. C'est un one-shot de l'autrice Yu Minadoki, La traductrice, c'est Delphine Desusclade. Alors, en fait, dans Un oisillon sur le rivage, on suit, en fait, Yuchi, qui a perdu sa sœur et ses parents dans un accident de voiture. Et, en fait, la sœur avait un fils, Ayumu. Et, du coup, c'est Yuchi qui prend sa garde. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce manga, c'est, en fait, le thème de la famille. Parce qu'on voit le thème de la famille, mais représenté de différentes manières. Tout simplement parce que Yuchi et Ayumu vont rencontrer Ryo, qui est un épicier, en fait, dans le quartier où ils habitent. Et à travers Ryo, on va voir une famille toxique. Et en fait, à travers Yuchi, on va voir... Alors, à travers Yuchi et sa famille décédée, on va voir une famille aimante, même si c'est assez vite... on en parle très rapidement, mais on sent que c'est le cas. Mais surtout, on sent aussi l'amour entre Yuchi et Ayumu. Et typiquement, par exemple, il y a une phrase qui, moi, m'a beaucoup marquée et qui a fait, justement, que c'est un de mes coups de cœur. C'est, Yuchi qui apprend que, justement, Ryo a une relation très remplie de haine, en fait, avec sa famille adoptive. Et il parle mal, justement, à un moment donné, à son frère adoptif. Et Yuchi lui dit, mais en fait, bon, c'est ta famille quand même, il faut faire des efforts. Il lui dit ça à peu près, pas dans ces termes-là, mais bon, c'est l'idée. Et en fait, Ryo lui dit, bah, toi, t'as eu une famille aimante, pas moi. Et justement, j'aime beaucoup ce côté-là, parce que du coup, c'est plusieurs façons de voir la famille. Et en fait, on voit l'amour entre Yuchi et Ayumu, et on voit quand même les difficultés pour eux deux, parce que du coup, bah, Ayumu, il a perdu sa mère, et Yuchi, il devient père un peu du jour au lendemain, donc il essaie de faire comme il peut. Et en même temps, on voit Ryo qui, lui, a une famille détestable, et Ryo dit, bah, en fait, je suis pas obligée d'aimer ma famille. Donc c'est vraiment ces deux façons de construire la famille, qui est très intéressante. Et par contre, le manga montre Yuchi et Ryo, en fait, avoir une relation amoureuse. Et j'avoue, bon, ça c'est un peu le point noir du manga. J'ai pas trouvé leur relation très intéressante, j'ai pas trouvé leur relation très pertinente. Et pertinente dans le sens que on sent pas l'amour naître entre les deux. Du coup... Après, on sent pas non plus une relation forcée, mais on sent pas vraiment de l'amour. Donc c'est plus le côté famille qui a fait que j'ai aimé Un oisillon sur le rivage. La relation en elle-même était sans plus.
D'accord, je le sens un peu, genre, parce que dans le cahier des charges, il faut une relation, mais sans ça, limite, ça aurait rien changé.
Oui, c'est ça, en fait, effectivement, après, c'est toujours bien, c'est de la représentation, puisque c'est un couple gay avec Ayumu, qui du coup, ça fait un peu famille. Ryo rentre un peu dans la famille, justement. Puisque Ayumu aime beaucoup Ryo aussi. Comme Yuchi aime Ryo, bon, bah, ça fait un peu deux pères avec un fils. Donc ça, c'est pas mal en termes de représentation. Après, c'est vrai que bah, la relation entre les deux, elle est pas plus que ça. Ça m'a pas fait des papillons dans le ventre, si je puis dire. Mais voilà, les personnages en eux-mêmes sont très cool. Et en fait, il y a une scène qui est ultra touchante entre Yuchi et Ayumu. Parce qu'en fait, ils ont du mal à communiquer l'un avec l'autre. Yuchi, il a beaucoup de non-dit avec Ayumu, il pense forcément ça. Ce qui n'est pas le cas, Ryo lui dit, parle-lui, écoute-le vraiment parler, et pense pas que, bah, il pense à ça, c'est sûr et certain. Et en fait, il y a une scène entre les deux où Ayumu lui dit, m'abandonne pas, s'il te plaît, ils se font un câlin, et elle est pleine d'émotions, cette scène. Mais justement, moi, j'ai pas senti d'émotion entre, bah, Ayumu, Yuchi et Ryo.
Je vois.
T'as pas de cœur, ça.
Et si j'ai du cœur.
Je suis pas sûr que t'aies précisé que tu aies précisé, pardon, que c'est un yaoi.
Oui,
après,
c'est vrai. Après,
induit quand on écoute.
Non, mais justement, c'est ce qu'elle a pas aimé dans le truc. Donc, du coup, c'est pas vraiment yaoi pour le coup.
C'est pas faux. Bien sûr, c'est pas le côté yaoi qui m'a pas plu. Parce que moi, je lis du yaoi.
J'ai l'impression que t'aimes bien. Ouais,
j'aime bien le yaoi, j'avoue. Parce que c'est quand même. J'en lis pas mal.
C'est à peu près la seule chose que tu lis.
Non, c'est pas uniquement la seule chose que je lis.
On va forcer à lire autre chose aujourd'hui.
Oui, effectivement, on va forcer. Moi, j'essaie de les forcer à lire du yaoi, mais ils ne veulent pas. C'est bizarre, je comprends pas pourquoi. Mais voilà, non, c'est juste que c'est très cool de les voir tous les trois ensemble. Quand ils sont heureux tous les trois, c'est très cool. La couve où on les voit tous les trois, bah, j'aime beaucoup le côté calme du rivage, puisque bon. Comme son titre l'indique, c'est Un oisillon sur le rivage, et on voit beaucoup, en fait, justement, Ayumu et Ryo être sur le rivage et construire leur relation, en fait, de grand frère, petit frère, fils, père, à cet endroit-là, géographiquement parlant. Mais voilà, Yuchi et Ryo, c'était sans plus.
La couve est belle, d'ailleurs. On y voit donc les trois personnages, un bord de mer, et surtout, on voit, en fait, la mer et les reflets, comment dire, les nuages qui se reflètent dedans. C'est très joli, je trouve.
C'est un one shot.
Oui. C'est un one shot, ouais.
Elle l'a dit au début.
C'est un one shot, et du coup, bah, ça se finit bien. Voilà, t'as.
Spoiler.
Ça se finit bien, ça se finit bien, mais voilà, c'est. Il y a des scènes où. Voilà, qui m'ont un peu laissé perplexe.
Je peux comprendre.
Lucas, un coup de cœur ?
Allons-y. Alors, il y en a un que j'ai évoqué très vite et un sur lequel je vais passer un peu plus longtemps, mais je vais essayer d'être court quand même.
Parce que tu nous fais chier.
C'est pas gentil.
Alors, je crois que Lucas va quitter la table.
Je pense surtout que Flo va s'éclater à démarqueter plein de trucs, parce que contrairement à la dernière fois, on laissera pas tout ça.
Je sais pas ce qu'il va laisser. Hein.
Non, ça va, j'ai à peu près confiance. Je sais que c'est une mauvaise idée, mais tout de même. Je parlais tout à l'heure du coup d'actualité qu'on pourrait évoquer, donc je parlerai très brièvement de Asadora de Naoki Urasawa. Puisque, qu'on aime ou pas, ça reste un auteur assez notable du coup, qui écrit des seinen uniquement, j'ai envie de dire, ou presque. En tout cas, il est connu pour ça en France. Et c'est un des auteurs que j'ai le plus. Comment dire ? Un des premiers auteurs que j'ai lu et qui pouvait être un peu respecté même par les gens qui étaient encore off les mangas, c'est vraiment un truc. Stupide. Stupide personne, putain. du coup, c'est son nouveau manga. Je crois qu'il a commencé il y a un an, en 2019 sans doute, du coup, au Japon. Je sais pas trop où ça en est en termes de nombre de tomes, je dirais 3 maximum, parce que l'auteur en fait prend son temps. Genre un tome, une pause, un tome, une pause. Donc j'irai pas non plus trop dans l'histoire, finalement, pourquoi on parle dessus. Parce qu'il se passe pas grand chose dans le tome 1 seul, en fait, c'est plus une présentation du personnage principal, Asa, qui est une petite fille des années 50, donc le Japon d'après-guerre, avec son état, enfin, qui est très loin de l'état actuel du Japon, on va dire, quoi. Encore très meurtri par le conflit. Donc voilà, on suit surtout ce personnage-là, sachant que le tout début de l'histoire commence par un gros monstre dans, donc pas Godzilla, mais c'est l'idée de Godzilla, donc un gros monstre à Tokyo en 2020, alors que les JO vont débuter. Donc on a ce petit passage qui dure 3 pages, et on revient sur 1957, je crois, en tout cas une petite fille, dans les années 50 au Japon. Et donc voilà, l'histoire, on ne sait pas où elle ira, parce que l'auteur prend son temps, comme souvent, donc ça mettra d'être au moins 2 tomes avant de savoir vraiment où on va. Mais c'était plaisant, et surtout, c'est... on va savoir qui revient, moi ça m'émeut. voilà, ça c'était juste pour en parler très brièvement. Sinon,
émeut l'animal du coup.
Tout à fait, émeut l'animal.
Très bien. Mais juste, du coup, tu sais pas quel est le rapport entre l'époque moderne et la petite fille.
Pour l'instant, on sait pas directement en fait. Je suppose que Asadora va traverser l'histoire et je pense qu'elle en 2020 elle est toujours vivante. Ça sera sans doute, enfin, c'est le personnage principal, même si elle a une famille de 7 enfants, mais voilà, c'est elle, le personnage principal. Et en fait, ce qui se passe, c'est. Enfin, il se passe un truc pendant une tempête qui arrive au Japon, truc régulier, et à la fin de cette tempête, on s'aperçoit juste d'un truc, c'est une énorme trace de pied, genre dans des rondins de bois, parce que je crois que tout est inondé en fait, et il y a juste du bois qui traîne partout, et t'as une énorme patte. Je voulais pas forcément en parler en fait, c'est pour ça.
C'est Godzilla,
après, quoi. C'est pas lui, visuellement, parce que genre il y a des cornes, mais clairement, c'est l'idée d'un Godzilla. Enfin, c'est un kaiju, mais c'est inspiré de lui, ouais, clairement.
Ok.
Et donc voilà, on sait pas où sera le lien, simplement, déjà en 50, il y a une grosse strate de papate. Donc oui, c'est vrai que j'aurais pu dire ça pour aiguiller, mais genre, limite j'en reparlerai plus tard quand il y aura quelque chose à dire vraiment en fait.
Non, parce que sinon t'aurais pu faire comprendre que c'était une pompe de Godzilla, donc elle est mieux peut-être pas quoi.
Il y a un moment en fait, c'est une référence culturelle, je suis pas sûr que si on puisse parler de pompe systématiquement, tu vois.
C'est... Après le 30e film sur Godzilla, bon, on est habitué quoi.
Donc le prochain arrive cette année, et ça c'est beau.
C'est la suite.
Kong vs Godzilla, ouais.
Ah c'est non, mais je parle des vrais films Godzilla, pas de la merde.
Non, malheureusement, je pense pas. T'avais kiffé les deux, mon gars. Je pense pas qu'il y ait une suite tout de suite à Shin Godzilla, que j'avais beaucoup aimé. C'est fou,
ouais.
Ce film était une tuerie.
Un truc, c'est qu'en plus, il peut en faire des suites.
Ouais, surtout que la fin est une fin ouverte, quoi. Donc, ouais. C'est ouf. Ce film était vraiment cool.
De toute façon, ils ont reboot, donc à partir de ce moment-là, ils peuvent nous remettre des 10 monstres des films de l'impression, quoi.
Ouais, bien sûr. Après, celui-ci a l'air de limite s'autosuffire dans ce monde, mais ça veut pas dire effectivement que ça sera, qu'il y aura pas des mash-ups s'il continue. Je sais pas. Du coup, comme c'est le... Merde, j'ai plus son nom en tête, j'ai honte. C'est l'auteur de Neon Genesis Evangelion, en fait, qui a bossé sur le film, ouais. Qui a fait le film. Du coup, il a fait une pause sur les Rebuilt Evangelion, les 4 films qui sont en cours, enfin les 4 films animés. Il a fait une pause pour bosser sur Shin Godzilla, donc comme là, il vient de finir le dernier Rebuilt, je suis pas sûr qu'il repasse sur un autre film. Enfin, il va forcément s'activer, mais je sais pas ce qu'il fera.
Il y a un film live Evangelion qui est prévu, non ?
Aucune idée. En vrai, je l'attends pas du tout si ça existe.
Ouais, je crois que si, mais je sais pas s'ils l'ont pris en conseiller, justement. Parce que, bon, quand tu adaptes des œuvres pseudo-philosophiques de SF un peu obscures, enfin obscures, connues du grand public, non mais obscures en termes de,
ouais,
de, spécial, de vision, quoi, etc., et d'intention.
Oui, c'est nihiliste.
Ce serait bien si t'appelais quand même l'auteur original, histoire d'avoir.
Ah, je pense qu'ils vont prendre Nietzsche comme auteur original qui va les aider à bosser dessus.
Ou alors un truc, tu vois, genre un mec. Bah, un mec philosophiquement qu'on impose, genre Michael Bay ou un truc comme ça.
mais ouais, j'ai plus le nom de l'auteur, ça m'embête un peu. C'est Gainax Studio, mais je sais plus.
Pas très grave.
Non, je sais, mais ça m'embête en fait. Ça fait
les puristes t'insulteront.
Oui, de base.
Moi, je t'insulterai. Tu l'insulteras pas pour les mêmes raisons.
Non, c'est plus le fait de parler d'un truc sans être capable d'aller jusqu'au bout qui m'énerve un peu, mais c'est
pas grave. Ouais, mais après, tu peux pas citer les auteurs de toutes les œuvres que tu connais.
Non, mais bon.
A priori, hein. Enfin, si t'étais capable, on le saurait déjà, tu serais pas autour de cette table. Et,
si, j'aime bien me mettre au niveau de la populace.
Oh, pas mal.
Voilà, donc Asadora, à suivre. Ça commence bien, même si si tu débarques là-dedans sans avoir jamais lu l'auteur, c'est pas forcément sûr que ça t'intéresse au point de lâcher la suite tout de suite, on va dire, mais voilà. Sinon, mon vrai coup de cœur dont je voulais parler, c'est un auteur, Inio Asano. Asano, ça doit sans doute se dire, je ne sais pas.
Pas du tout.
Ok, donc, mon vrai coup de cœur dont j'ai envie de parler, c'est Inio Asano. Un auteur que j'ai découvert par Errance, un one-shot, il y a un an, je crois, un truc comme ça. Ensuite, j'ai lu Dead Demons Destruction, qui est toujours en cours, 8 tomes arrivés en VF chez Kana. C'est très cool, ça évoque...
C'est quand même un nom court.
L'auteur ? Ah non, le manga, ouais, c'est à peine relou. Ouais.
Et le pire, c'est que ce nom, j'ai toujours pas eu le manga, mais ce nom est resté dans ma tête, genre en mode, c'est vraiment le truc, tu vois. L'exemple parfait du nom que tu peux ressortir qui a un nom un peu punchy, quand même.
Grave. Bah, en fait, le DDDDD, il a de bien. Mais genre le titre, même dans l'histoire, tu sais c'est pas ce que ça veut dire, clairement. Mais c'est très cool, déjà de base. Et c'est de la SF. Et l'auteur évoque le traumatisme de Fukushima, notamment avec ça, sa façon de l'évoquer. Mais bon, j'ai découvert via ça, et là je voudrais parler de Bonne Nuit Poon Poon, une série finie, en 13 tomes,
au et Japon. Inspiré en termes de nom, quoi, du coup.
Bonne Nuit Poon Poon. Poon Poon, c'est le nom du personnage principal, mais en fait, enfin Poon Poon Poonyama de son nom complet. Mais on n'a aucune preuve que ce soit vraiment le nom du personnage. J'y reviens juste après.
Poon, c'est pas je sais pas s'il l'explique dans le manga, mais Poon, c'est pas un jeu de mots en anglais ?
Il y a moins.
Ou en japonais, je sais plus. Mais je crois que le.
Si jamais c'est noté, c'est genre dans le premier, je m'en souviens plus, mais c'est possible. Pas de soucis, t'inquiète. donc 13 tomes parus entre 2007 et 2013 au Japon. Je crois qu'en France, c'était quasiment les mêmes dates, ça arrivait assez vite. Chez Kana, en France, est traduit par Thibaut Desbief, je sais pas comment ça se dit, qui est accessoirement le traducteur d'Asadora. J'ai bien aimé voir ça, qui était aussi édité chez Kana, je ne sais plus si j'avais dit.
C'est juste un de tes potes et tu lis ses mangas, en fait.
C'est ça, c'est ça. Donc, Bonne Nuit Poon Poon, en fait, quand je disais qu'on sait pas forcément si c'est le vrai nom du personnage, c'est que donc, le trait de Asano est ultra réaliste, globalement. Genre, les décors sont très chargés, c'est plein de détails, etc. Mais Poon Poon lui-même, le personnage principal, est représenté par un genre de petit. Un oiseau en 2D, en fait, plat. Et caricatural, genre un oiseau de cartoon un petit peu. Il aura d'autres formes éventuellement, enfin c'est pas éventuellement, il aura d'autres formes dans l'histoire, mais c'est surtout ça sa forme principale. Et du coup, comme il a une forme qui n'est pas juste, il parle jamais par exemple. Si, sur la fin il parle un peu, mais il parle très peu, les autres interagissent avec lui, lui il bouge, etc., mais il répond peu. En tout cas, pas avec une bulle, des fois c'est sur un fond noir, tout ça, mais voilà. Et comme il a une forme indéfinie par rapport aux autres, on peut aussi supposer que Poon Poon, Poonyama, ça fait vraiment jeu de mots et nom un peu drôle. Sachant que sa mère c'est Poon Poon Mama et son père Poon Poon Papa, c'est pas super précis. Les autres personnages eux sont normaux, mais voilà. Du coup, ça s'intéresse à la vie de ce monsieur Poon Poon qui commence comme un enfant, je crois qu'il a 2 ans dès le début de l'histoire, ou non, un peu plus, peut-être 4 ans, bref. En gros, tous les deux tomes, on passe 2 ans plus tard, pendant au moins la moitié de l'histoire, et ensuite on suit de façon plus linéaire. Et c'est un gamin qui a une vie pas forcément facile, situation familiale compliquée, etc. Et lui, en fait, est particulier. Genre, c'est un mec qui est un peu amoral. Ce dont on se rend pas forcément compte quand il est très jeune, mais qui devient plus tangible sur la suite. Et j'ai beaucoup aimé ça, en fait, avoir affaire à un personnage. C'est pas un anti-héros, hein, mais c'est juste un mec qui a une moralité. Enfin, il fait des choses où des fois on serait pas fiers de les faire nous-mêmes, etc. Et il est assez nihiliste comme personnage. Sa vie un peu aussi. C'était un peu badant par moments, mais j'ai beaucoup aimé le côté critique sociale et qui sont, c'est ultra notable dans l'œuvre de l'auteur globalement. Et tout à l'heure, tu parlais de point de vue sur la famille, par exemple, tout ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la toute fin. Je vais pas spoiler non plus. Mais à la fin du tome 13, en fait, tu rencontres un personnage que Poon Poon a connu quand ils étaient tout jeunes, mais que je crois qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, ou très peu.
13
tomes, hein. Ceci, le dernier tome que j'ai devant moi avec une couverture toute blanche. D'ailleurs, gros effort sur la couverture.
Autant pour moi, j'avais pas saisi le nombre de tomes qu'il y avait.
C'est 13.
D'accord.
Si, je me suis
fait taire. Il l'a dit, hein.
Ouais. Autant pour moi, j'écoute qu'à moitié en fait ce que tu dis depuis le début, mais.
Pas de soucis. C'est beaucoup plus agressif que les dernières fois.
Moi, j'écoute, moi.
Merci.
Non, c'était intéressant, mais j'avais pas compris à quel point c'était long en fait. D'accord.
Okay. Si, 13 tomes, et ça, je les ai dévorés. Et donc voilà, Poon Poon en fait re-rencontre un mec qu'il a connu quand ils étaient très très jeunes et qui se sont perdus de vue depuis. Et en fait, le mec qui voit Poon Poon voit que Poon Poon est entouré, il y a des gens autour de lui, et se dit, c'est bizarre, il lui est arrivé des trucs, mais il a l'air heureux, il a l'air d'avoir une belle vie. Et en fait, quelqu'un qui vient de le rencontrer pense ça en le voyant brièvement, et toi, quand t'as lu l'histoire, tu sais que Poun Poun va peut-être mieux, mais il va pas forcément bien. C'est pas un mec qui va bien, c'est un dépressif, tout ça. Et j'aime bien en fait le côté. Si tu connais l'histoire, tu sais comment ça va dans sa tête, comment ça va dans sa famille, ce qui a pu lui arriver. Si tu connais pas l'histoire, comme le mec qui arrive à la fin, tu découvres. Et j'ai assez apprécié. J'ai lu les deux premiers tomes, genre il y a peut-être 6 mois ou 9 mois, 1 an, je sais plus, quasiment dès que j'ai découvert l'auteur. Et j'ai bouffé la suite. Genre j'ai acheté les tomes, bah, du coup, 3 à 13, d'un seul coup, quasiment en une semaine. Et j'ai donc dévoré en une semaine le reste. Et vraiment, j'étais très très pris dedans. C'est un peu badant par moment, effectivement. Beaucoup de tomes, en fait, se finissent dans ceux où tu passes 2 ans. Genre, tu finis, l'histoire, ça commence presque à aller bien pour Poun Poun, et là, bam, ellipse. Et genre, tu passes un... Les chapitres sont très courts, genre 10 pages ou 15 pages. Donc, ellipse, un dernier petit chapitre où t'as passé 2 ans, et où, à nouveau, ça va pas forcément très bien dans la vie de Poun Poun. Donc, limite pour le spectateur, enfin le lecteur, pardon, ça peut être un peu éreintant par moment, de te dire, ah, cool, ça va enfin bien, et là, pas trop, et voilà. Mais voilà, c'est vraiment une œuvre que j'ai beaucoup, beaucoup aimée et il mérite d'être un coup de cœur pour moi. L'auteur en général me plaît et je continuerai. J'ai encore sa première œuvre vient d'être publiée en France chez Kana, donc je vais la lire tout bientôt.
D'une part, c'est super beau.
Graphiquement, c'est fou. Hein. C'est des fois, les visages sont un peu spéciaux, entre guillemets.
Vraiment dingue.
Ça peut virer la caricature, mais c'est magnifique et vraiment, c'est des décors. Le remplissage des décors est fou et du coup, quand je dis autre chose après ça, des fois, je me dis, tiens, le manque d'effort. C'est juste l'auteur qui vire à l'ultra-réalisme. Aujourd'hui, il a une petite team d'assistants qui doit aider. Je pense, vu la complexité du truc.
C'est vrai qu'on tourne vers le réalisme quand même. Hein.
Ah ouais, c'est ultra réaliste.
Mais justement, j'allais te demander, c'est pas un peu surprenant quand tu suis le personnage qui du coup n'a pas de tête, enfin, qui a une tête d'ombre noire avec un bec.
C'est ça qui est très marrant en fait, c'est le côté tout est réaliste, sauf lui. Et du coup, il est en total décalage et ça aide en fait à rentrer un peu plus dans la tête du personnage et à comprendre. En fait, tu comprends un peu ses états d'âme via ça. C'est très caricatural la manière dont il bouge et il a d'autres têtes, genre il y en a une où il a des cornes un peu de diable, dans ce tome-là notamment. Mais ouais, ça aide un peu à comprendre ses états d'âme, de voir comment il est. Il y a un moment, il prendra une forme de pyramide, sans corps, juste une pyramide par exemple, au moment où il est le plus dénué de tout sentiment et autres. Enfin, non, t'as vraiment un jeu là-dessus. Je crois que l'auteur en fait a dit en interview qu'il avait fait surtout pour gagner du temps en dessinant en fait, parce que il a peu de séries au long cours comme ça. Si je me trompe pas, il y a Bunny Poon Poon en 13 tomes et Dead Demons qui est actuellement en 8 tomes. Sinon, je crois qu'il a quasiment que des one-shots, même si c'est peut-être, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de numéros, mais c'est relativement court, quoi. Donc, ouais, c'était notamment une manière de gagner du temps. Il disait aussi que pour Bunny Poon Poon, il travaillait vraiment en plein de photos, et ensuite il dessine ce qu'il photographie, donc ce qui lui permet, je pense, de gagner pas mal de temps, notamment plutôt que d'imaginer, entre guillemets, les décors. L'auteur, d'ailleurs, a fait pas mal parler de lui dernièrement en France avec le Festival d'Angoulême. Tu viens de voir un truc qui t'a à moitié choqué, qui était baissé.
Non, mais en fait, je sais plus si t'avais dit le genre.
Seinen.
Mais ouais, c'est Seinen, genre à base de meurtre et de scènes de cul en fait.
T'en as pas beaucoup, mais ouais. Enfin, t'as des scènes un peu malaisantes comme au sexe dès le début quasiment.
Moi, je spoil le tome 13.
Mais tu as des événements un peu sanglants et un peu tristes et violents. Ils sont pas ultra légion, mais c'est malsain. T'as vraiment beaucoup de malsains dans l'histoire et c'est pas forcément à faute de Poun Poun, même si des fois oui. Mais voilà, il a pas eu des bonnes rencontres parfois et ça se lit. Mais voilà. Et donc je disais, oui, Festival d'Angoulême, l'auteur y était invité comme un des invités principaux, invité deux fois de suite, c'est pas beau. Et ouais, je suis assez content en fait d'avoir vu autant d'articles sur lui dans des médias grand public. Le Monde en a parlé, d'autres médias donc, que j'ai plus en tête, mais je vous ai pas mal partagé quand c'est arrivé. Et ça me fait très plaisir en fait de voir une mise en avant. Alors c'est facile de plaire à des Européens quand tu fais une œuvre un peu dépressive, c'est sûr. Mais n'empêche, j'ai trouvé ça assez plaisant en fait de voir une telle présence du manga et assez diversifiée, c'est du seinen, au Festival d'Angoulême, c'était cool. Et je parlais de la couverture toute blanche du tome, parce qu'en fait tous les tomes sont une couleur primaire bien flashy, avec des fois, c'est pas de la surimpression, tu sais, quand t'as une forme qui se dessine sous les doigts, on va dire. Il y a des fois des trucs très simples, genre la tête d'oiseau de Poun Poun en surimpression, et globalement tous les tomes ont un peu de trucs comme ça, en surimpression, sauf le dernier qui est blanc. Mais quand tu retires la couverture, à chaque fois t'as... une autre cover en dessous. Des fois, c'est pas travaillé, mais en l'occurrence, par exemple, c'est un joli dessin qui est en dessous, en couleur.
Couverture voilà. Qui, chez tous les autres éditeurs, serait la couverture, la vraie.
Ouais, mais là, c'est vraiment, je pense, délire de l'auteur plus que le canard en soi. Mais...
bien sûr.
Voilà, je vais arrêter là pour le coup de cœur. Je pense qu'on a déjà pas mal parlé pour nos coups de cœur et les actualités.
Comme toujours, quand on parle d'un truc...
très cool.
Il y a une suite. Flowers, le premier tome donc de la suite de Shaman King.
Qui s'appelle du coup Shaman King Flowers, c'est pas Flowers.
Ouais. Exactement. même si c'est quand même écrit en énorme Flowers.
Ouais, c'est genre l'époque Anna, c'est ça je crois, le
sous-titre. Ah, peut-être. C'est possible.
Le sous-titre qui est en tout cas au dernier chapitre, à la fin du dernier tome de Shaman King.
Ah oui, peut-être. Mais je crois que le nouveau manga s'appelle juste Flowers. Eh oui.
Quel jeu de mots.
Donc ouais, la suite directe pour ceux qui ont lu Shaman King peuvent commencer ce truc là. Ça commence, ça sort là cette semaine.
Direct à la rigueur du dernier chapitre, qu'à la fin du dernier tome, mais c'est pas l'œuvre Shaman King elle-même se finit genre 10 ans ou presque avant.
Oui, bien sûr. Ouais. Et en gros, si vous avez lu que le premier, les deux tomes de Shaman King qui viennent d'être réédités, surtout ne lisez pas Flowers.
Ouais.
Ça va trop spoil la fin, ça spoil qui est vivant, qui est mort.
Ça change beaucoup en termes d'ambiance même et d'emploi.
Oui, en fait. Oui. Donc, et puis en termes de dessin, vous n'aurez pas vu l'évolution. Donc en fait, pour rattaquer Shaman King après, alors que vous venez de voir Flowers, ça va être compliqué aussi.
Après, le trait est marrant, le trait du début.
Quoi, ouais, bah, y a 15 ans de différence quand même en trait. Donc,
20 ans même.
Ouais. Donc ouais, Flowers sorti, c'est très très bon. Nous, on en parlera sûrement la prochaine fois, même rapidement.
Alors, c'est très très bon, on reverra en le lisant, mais ça fait longtemps que je l'ai pas lu.
Oui,
après,
c'est
ça
vrai.
Du Takei, donc ouais. Je sais que c'est pas du tout ce que j'ai préféré lire de lui, clairement. Mais
autre actu rapide, donc salon du Paris Manga est annulé, Livre Paris aussi. Il y avait pas mal d'invités d'auteurs de manga, de réalisateurs d'animés, etc., qui étaient là, conviés. Donc ça repousse pas mal, il y en a certains qui seront réinvités à Paris Manga, qui a la deuxième édition a lieu en novembre.
Tous les 6 mois à peu près du coup.
A priori, ouais, en tout cas j'ai pas très bien compris pourquoi il y en a eu 2 cette année, si c'est tout le temps comme ça, j'avais pas l'impression.
Mais... C'est déjà prévu de l'annuler, le coronavirus c'est les Français qui l'ont lancé.
Et peut-être de la dire qu'il y a complot, on ne sait pas. Voilà, et en actu aussi j'avais autre chose je crois, bon tant pis, je m'en rappelle pas.
Puis on refera un point actu en plein milieu.
Oui bien sûr, puis je ferai du montage comme d'habitude. Voilà.
Hmm ouais, parce que c'est Florimond qui fait le montage.
Évidemment.
Quel homme.
Et on le paye en compliment.
Alors, oui. Déjà vite fait, moi je le paye en insulte un petit peu quand même.
La base, réciproque.
Dire, toute bonne relation amicale commence par une insulte.
Évidemment.
C'est vrai.
Évidemment.
On en était donc à la fin de
Bonny. Oui, parce que j'ai pas d'actu. Voilà.
Coup de cœur.
Enfin, j'ai pas de coup de cœur pour être exact. Genre, j'ai lu pas mal de trucs, mais rien d'incroyable. Ou alors, j'en reparlerai. En fait, ouais, j'ai lu. J'ai été sur le Jump. Je rappelle que le Shonen Jump Plus, je sais plus exactement quel est le nom, mais vous trouvez facilement sur internet. C'est une version du coup du Shonen Jump qui sort toutes les semaines. Au Japon.
C'est marrant, et
qui
s'appelle le Weekly Shonen Jump, je pense qu'il y a un lien.
Ouais, mais ça pourrait être un site totalement faux. Or, c'est la version officielle, donc. Ouais.
Et légale.
En anglais et en espagnol, du Jump, donc avec tous les chapitres chaque semaine. Donc, vous pouvez lire vos scans de One Piece, tout ça en légal. Donc, essayez, s'il vous plaît, de le faire. Ça soutiendra les gens. Et en plus, comme ça, ils peuvent voir des stats. Donc, ils peuvent voir les Français qui lisent chapitre par chapitre. Et du coup, ils pourront voir qu'on a besoin d'une version française. Et voilà.
C'est comme d'hab, il y a genre les 3 premiers chapitres qui restent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le chapitre, et les, genre les 2 derniers actuels.
C'est à peu près ça, ouais. Okay. 3 premiers, 3 derniers. Sauf les très vieux mangas, je crois qu'ils laissent genre très longtemps, 10 ou une quinzaine de chapitres.
D'accord.
Ils remettent tous les Dragon Ball, tous les One Piece, tous les Naruto au fur et à mesure.
Cool ça. Ok.
Donc ouais, et là-dedans, j'ai lu du coup toutes les dernières séries. J'en reparlerai. Il y a Zipman qui est assez sympa, même si c'est assez classique. Il y a un petit twist au 10ème chapitre qui est intéressant. Il y a Actage, mais on en reparlera. Ouais. Donc,
c'est un de nos futurs, pas un coup de cœur.
Je pense, en tout cas, moi, c'est un bon coup de cœur. J'ai lu que 2 chapitres, mais
ça a l'air très plaisant. On en a parlé beaucoup.
Voilà, c'est super beau. Ça parle du monde de l'acting, du fait d'être acteur. Et il y a beaucoup de trucs. C'est un peu le Bakuman du monde de l'acting au Japon.
Il y a aussi une nouvelle série de Bakuman qui sortira bientôt.
Et d'ailleurs, oui, on en reparlera largement parce que c'est dans 3 mois.
Ouais, c'est en arrive, 2
mois.
La sortie, ouais.
C'est début mai, je crois. 5 mai. Donc il y a l'équivalent de Bakuman qui s'appelle Hitman, d'ailleurs. Qui est l'équivalent de Bakuman, mais pour le Sunday Magazine. Donc le rival du Jump, en
question.
Fait.
Bakuman, du coup, je me souviens plus trop ce que j'ai lu la moitié, ça date déjà, mais en gros, les personnages finissent par bosser pour Kana, justement, ou pas spécialement. Pas Kana.
Oui, c'est Jump que tu veux dire. Pardon, ouais. Oui, dès le début, ils sont dans le Jump.
Ok, je me souviens plus.
Dès le début, c'est le Jump, le méga truc. Je pense.
Je
crois qu'ils changent jamais d'éditeur. Okay. Enfin, après, j'ai pas tout lu, mais je crois que dès le début, c'est le Jump.
Okay.
Et là, du coup, oui, bah, Hitman, ça raconte l'histoire d'un éditeur qui va. Enfin, d'un éditeur, ce qu'on appelle les. J'avais le terme la dernière fois, je vous l'ai dit, tant pis si je l'ai plus, mais en gros le coach, vrai.
L'éditeur qui s'occupe techniquement précisément de cette œuvre-là. Quoi.
C'est ça, enfin, putain, je l'ai plus, bref. Et cette personne en fait découvre une autrice de manga, et en fait c'est leur chemin à tous les deux pour devenir connus et faire un bon manga. Et ouais. Ça a l'air génial, super bien dessiné, et ça sort... moi j'avais jamais entendu parler avant là, donc je vais pas faire le mec, mais il y a déjà beaucoup de chapitres.
L'air heureux.
Ouais, ça a l'air vraiment fou, et en plus Bakuman était génial pour les fans de manga. Je pense que c'est l'un des meilleurs mangas de l'histoire, qu'il soit que ça se finisse mal ou que l'auteur, tu vois, genre que le scénario devienne mauvais, etc., ça ne changera rien que l'existence de Bakuman fait que ça doit être lu, je pense, pour les gros fans de manga. En fait,
peut-être presque plus pour les étrangers que pour les japonais. Parce que eux, j'imagine qu'ils connaissent un tant soit peu plus leur fonctionnement.
Oui, bien sûr.
Pour nous, c'est ultra instructif de voir comment ça fonctionne et pourquoi une œuvre peut marcher ou non, quelles que soient ses qualités limites, en fait.
Totalement.
Si le public accroche ou pas.
Et... C'est ça, en fait, c'est juste c'est une sorte de guide sur comment le jump existe, mais en manga, en fait. Et c'est dessiné en plus par. Par Obata.
Ouais.
Donc,
Takeshi Obata et Tsugumi Oba, l'auteur, du coup, qui sont les connus surtout. Enfin, maintenant, je pense que ça a eu un petit succès avec ses 25 tomes.
Bah, combien de c'est 3 fois plus presque que Death Note. Donc,
Mais ils sont très connus pour Death Note, justement.
Ouais. Donc, voilà. Et donc, Hitman, on verra quelle est la qualité, mais a priori, je pense que c'est trop bien aussi de savoir comment ça se passe chez les rivales, c'est exactement pareil ou autre. Donc, ça, on en reparlera. Donc, ça, c'est vachement bien, mais c'est pas du tout chez le Jump.
On peut faire une liste des choses qu'on va parler.
Ouais, bah, ça, on a le temps. Parce que on va attendre les tomes français plutôt pour parler des trucs. Genre, Act Age, ça sort dans 3 semaines, 1 mois.
C'est ça.
Bah, donc, autant, c'est pour ça qu'on en reparlera.
Le pseudo Bakuman, si on peut très bien le lire en anglais, tout, histoire de. Si on veut en
maintenant, justement, du coup, parce que c'est pas le Jump. Donc on les a pas, ce sera forcément scanné illégal. Donc non,
on verra, okay.
Évidemment que non.
Mais ouais, du coup, en tout cas, Act Age, on voulait commencer éventuellement, mais quitte à ce que ça arrive en VF, bah autant attendre.
C'est ça.
Ça arrive tout de suite. Ouais. Tu veux parler d'autres choses que t'as lues, genre sur le Jump ou pas?
C'était pas très bon, le reste que j'ai lu sur le Jump. Il y a Jujutsu Kaisen qui est sorti, je suis mitigé dessus, il y a 2 tomes, donc je vais peut-être les feuilleter encore un peu avant d'en parler ou pas. Ça avait l'air intéressant mais très classique, ça a beaucoup de succès dans le Jump, donc à voir que si ça devient plus intéressant. Et je crois que c'est traduit par la même traductrice que DB Super, je vais me tromper, je vais pas l'insulter là, cette dame à qui on doit beaucoup, mais en tout cas c'est ça a l'air intéressant mais sans plus, c'est ça le truc. Mais bon, on va voir.
Du coup, en fait, Flo a fait un tour sur un peu tout ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant à commencer, puisqu'on a décidé de varier un petit peu la recette par rapport à... La fois précédente, en fait, on avait trouvé une thématique notable sur laquelle on avait échangé beaucoup, et en revenant régulièrement sur Shaman King, qui était l'actualité coup de cœur du moment. Là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de démarrer tous les trois X manga, en l'occurrence 2. On verra plus tard, après, si on fait plus, moins, après, ça sera trop s'éparpiller non plus, je pense. De les lire cette semaine, on les a lus ce week-end, à peu près, en gros. Et d'en parler en échangeant maintenant. On s'est presque pas parlé de ce qu'on a lu pour l'instant, à part pour dire c'était cool. Et on a échangé un peu sur le premier tout à l'heure. Mais voilà, on les a un peu mis de côté, histoire qu'on puisse avoir des réactions presque à vif. Si vous nous entendez nous battre, nous déchirer, ça sera réaliste.
Vous inquiétez pas, à la fin on s'aime toujours.
Vite fait. On va commencer donc, du coup, par notre première lecture. Donc c'est Neon Keys.
Ouais, de Atsushi Okada. C'est marrant, elle s'appelle Okada. Traduit par et Julien Pouli. En fait, Flo l'a dit tout à l'heure, genre, c'est marrant, j'ai failli dire qu'il s'appelait Okada.
Et en fait, c'est l'auteur de
Sensei Age. Megumo Okada.
Du coup, revenons à Neon Keys.
Revenons à Neon Mouton. Donc, Neon Keys de Atsushi. Exact. C'est très animalier le thème d'aujourd'hui.
Oui, d'ailleurs. C'est vrai.
Donc, Neon Keys de Atsushi Okada, traduit par Julien Pouli. Je pense qu'il n'y a pas trop d'erreur sur la prononciation pour une fois. Aux éditions Doki Doki, que je ne connaissais pas du tout personnellement. Et la VO a commencé en 2017, c'est fini avec 5 tomes. Mais en VF, le tome 1 vient tout juste de sortir, genre la semaine dernière en fait. Donc ça tombe bien. Maëlle, tu nous présentes ce que c'est ?
Alors, Neon Keys, c'est un furio. C'est un furio en fait, dont la particularité, c'est qu'on suit des chats.
Juste une petite aparté, un manga furio, c'est un manga avec des jeunes qui se mettent sur la gueule.
C'est des voyous.
Voilà, un manga de voyous, un manga avec des lycéens généralement. Sunken Rock, et encore que Sunken Rock, on est plus dans la mafia, etc. Limite.
Ouais, il y a un peu trop de
Crows, de Worst, Young GTO. Et il y en a plein, Rookies.
Celui qui fait pas mal parler de lui, parce que la traduction est vraiment...
Ah oui, bien sûr. Et le dernier en France, c'est Tokyo Revengers.
Du coup, alors, en fait, la particularité, comme je disais, c'est que ce sont des chats. Et en fait, dans le manga, des fois, on les voit version chat, et des fois, on les voit version humain. Donc ça, c'est la particularité du manga.
Donc en fait, c'est des chats dans une ville qui s'appelle Nekonaki, je crois.
C'est un quartier,
mais oui, le quartier de Nekonaki, mais on suppose que c'est une grande ville. Et en fait, c'est tous des chats, les personnages. Il faut bien se mettre ça dans la tête. L'univers, c'est un personnage...
Il y a des humains. On voit des humains.
Oui, bien sûr, voilà. Mais les personnages principaux, les protagonistes, etc., sont des chats. Et par contre, on a une vision d'eux quand ils s'imaginent eux-mêmes. Ou en tout cas, on a des des cases où ils sont représentés en humains.
C'est ça. Des fois, c'est l'un, des fois, c'est l'autre. Et après, des fois, ce qui est marrant pour moi, que ça rentre en tête directement, c'est que tu as une double page, par exemple, ou même n'importe quelle case, mais en gros, la même case, deux fois, une fois où ils sont humains, une fois où ils sont chats, histoire de vraiment te faire comprendre que ce sont des chats, et du coup, histoire de te faire rire un peu, parce que souvent, ils en profitent pour faire des situations un peu absurdes.
Ben en fait, le truc, c'est que la vie d'un chat est plus ou moins absurde.
Ouais, déjà, ils ont des couilles à l'air
tout respecte pensé. Les chats.
Ouais.
Respectez les chats.
Non, mais c'est vraiment la vraie vie des chats, quoi. Ils sont souvent coincés dans des trucs, ils essaient de passer par des endroits qui sont pas faits pour eux, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de trucs comme ça.
Il y a une scène où ils sont coincés dans une boîte en carton.
C'est ça, et c'est très marrant.
Le pourquoi il va dans la boîte fait très chat. Enfin, l'auteur écrit assez, je vais pas dire finement non plus, c'est pas très fin comme manga.
Non, mais
c'est bien les chats.
C'est un manga sur les chats.
Incarné par des humains.
Et voilà, ils ont des caractères souvent d'humains. En tout cas, qui sont humanisés à certains moments, et ces scènes-là sont représentées, et du coup, c'est assez régulier, genre une case sur deux presque, et un interverti, ou un truc comme ça, donc on n'a pas ce côté c'est humain tout le temps, et des fois on nous rappelle que c'est les chats. Non, c'est vraiment un manga sur les chats.
Du coup, ça se lit ultra vite.
Ouais, totalement.
Déjà, les cases sont assez grosses globalement, c'est bien fait, dans mon souvenir déjà, j'en ai devant les yeux, bref. Le trait est assez joli, il est, je vais presque dire, un peu quelconque, entre guillemets, il n'est pas ultra notable, surtout par rapport à celui dont on parlera après. Mais le trait est joli, il y a un beau travail qui est fait dessus, c'est très clair, très lisse, très net, etc. Et c'est des grandes cases, donc c'est très dynamique. Ça se lit vraiment super facilement. Genre le tome, franchement, je pense l'avoir lu en à peine 20 minutes, et je suis pas un lecteur ultra rapide, dès que c'est verbeux. Donc, et puis c'est pas très verbeux, justement.
Parler rapidement de l'histoire, c'est l'histoire de Ryusei, un nouveau chat qui arrive en ville. Il est fan de liberté, etc. C'est un grand solitaire.
C'est un chat comme on les entend, quoi, un chat de gouttière.
C'est ça, voilà. C'est le chat de gouttière par excellence. Il a une oreille à moitié arrachée, une cicatrice sur la joue.
Et un torse avec une étoile sur le torse, je crois.
Il a une étoile sur le torse, ouais. Et
c'est
en fait.
Un chat tigré un peu basique, mais il a ses trucs pour le.
Voilà, ça, c'est un chat tigré assez basique avec des cicatrices physiques, quoi. Avec des séquelles. Et en fait, du coup, il vit sa vie à pleines dents. Et d'ailleurs, il commence par.
Se faire engueuler.
Par se faire engueuler parce qu'il essaie de bouffer à un endroit où il ne devrait pas. Parce qu'il n'a pas le droit, parce qu'il y a des lois en fait dans ce quartier. Et du coup, on lui cherche des noises.
Une centaine de. Je sais plus combien.
Il y a une centaine de lois, effectivement.
Ouais.
Et que le chef connaît par cœur.
Ouais. Et on les cite une par une.
On lui énonce les règles, mais il les écoute pas.
Non, non, ouais. Et du coup, il va se mettre directement à dos le gang qui gère plus ou moins ce bout de quartier ou ce quartier entier.
C'est le gang qui gère ce quartier, point la ligne.
Ouais. Et il va essayer.
Un gros chat roux.
Qui ressemble au mien.
C'est ça, un gros chat roux.
Ah, et le mec, quand il est en humain, le chef a une coiffure, une banane, genre le cliché. Un
ouais, le Yankee, parce que Yankees, il y a un jeu de mots, je ne l'avais pas dit, mais Nyan, c'est le nom, c'est miaou en japonais. Nyan, c'est le son des chats. Et Keys pour Yankees, qui est les furios, en fait, c'est le loupard japonais. Yankee, c'est le loupard. Et américain aussi, mais en fait, ils prennent le mot justement des mecs américains.
Non, mais je veux dire, Yankees, ils l'utilisent au Japon, soit comme terme
pour Ouais, c'est un terme japonais.
Ok, je pensais pas.
C'est has-been de ouf, je crois.
D'accord.
Bah, ouais, après, je vais pas dire de bêtises, quand je vais filer le truc à la Furious Squad, ils vont m'engueuler. Mais,
les personnages, quand on les voit comme ça, ont l'air un petit peu. Le chef, avec sa banane, il fait des huées, justement. Genre,
c'est
plus le principe ou autre.
Bah, c'est plus ou moins le principe, de toute façon, ils sont en dessous de leur gueule. Et même le héros se fout de leur gueule, alors qu'il fait partie de ce même monde.
Parce que lui, assez différent, mais ouais.
C'est ça, lui, c'est un rebelle, solitaire. Etc., qui a un passé. Il arrive et il se fout un peu de leur gueule parce que voilà, ils sont avec leur vieux gang à l'ancienne, avec leurs règles et tout.
Dès le quatrième de couverture, il y a quelques images qui, justement, pour montrer le concept du manga, opposent la version chat à la version humain. Et tu vois le chef genre, qui tape contre un mur en disant avant il y avait des lois et tout. Donc, gros cliché volontaire, je pense, hein, c'est pas négatif quand je dis ça, mais gros cliché du film de gangster, que ce soit japonais ou autre, hein, mais. Du mec qui s'insurge, et du coup tu vois un chat qui tape contre un mur, c'est un peu aberrant.
Et la scène elle est trop bien, parce que le chat il est appuyé comme ça, enfin c'est. Oh, les scènes avec les chats elles sont trop trop cool, je trouve.
Globalement, ouais, ça passe crème.
Et du coup, ouais, votre avis, Mélanie?
Alors moi j'ai été un peu déçue, voilà, je préfère le dire.
pas peur.
En fait, effectivement, tout ce qui est chat m'a plu, c'était. Il y a des scènes très marrantes quand on les voit en forme de chat. Il y a une scène où en fait ils sont genre tout le groupe, une quinzaine, vingtaine de chats, et en fait ils doivent aller à un endroit. Et normalement, c'est un truc urgent, et en fait sur le chemin il y a un mec qui leur propose du poisson, et après il y a un chien qui aboie, il y a plein de trucs qui arrivent comme ça sur leur route.
Distrait, ou une bestiole aussi.
C'est ça, et en fait, du coup, tu vois trois chats qui partent à droite, trois chats qui partent à gauche, et en fait, bah, ils avaient un truc hyper urgent à faire, ils arrivent, en fait, ils étaient 20, et à la base, ils arrivent, ils sont plus que deux. Donc ça, c'est très marrant. J'avoue. En fait, le côté chat est très marrant. En fait, ce qui me gêne beaucoup, c'est que s'il n'y avait pas le côté chat, en fait, ce serait un peu nul. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment le côté chat qui rend le truc intéressant. Ouais, ils sont très humains. Ils sont vraiment, leurs réactions, leurs interactions sont très humaines. Au-delà de, s'il y a de la bouffe, ils vont être attirés. Et en fait, du coup, si tu retires tout ce côté félin, il reste un truc classique, en fait. Un truc vraiment classique. Et que du coup, s'il n'y avait pas le côté félin, je ne le lirais pas. Et ça se sent trop. Moi, je l'ai trop senti dans le premier tome. Et ce côté trop humain m'a gêné. Et une autre chose qui m'a gêné également, après, c'est un furio. Il n'y a qu'une femelle dans le manga. Et c'est le. Enfin, je veux dire, c'est cliché de ouf. Vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment cliché. Elle arrive. Et quand on la voit arriver, pendant un moment, j'ai eu un espoir. Je me suis dit, oh, elle arrive parce qu'elle est là. Elle veut. En fait, elle veut. Il y a le héros qui voit je sais plus quoi un truc à manger quoi,
ouais, sans doute.
Et en fait il y a quelqu'un qui, enfin il y a un autre chat qui arrive et
c'est
qui
un oiseau, ouais.
Voilà, c'est un oiseau. Il y a un autre chat qui arrive et qui essaie de le shipper avant lui. Mm-hmm. Et en fait du coup à ce moment là je me dis, ah c'est cool, ça peut être marrant. Sauf que la pose ultra lascive, en plus à ce moment là on la voit en tant que humaine. Donc, du coup, on voit les dessous de sa jupe. Et ensuite, dès que le héros il voit une femelle, tout de suite, c'est harcèlement. Et ça part en harcèlement, ça part vraiment direct en harcèlement parce qu'elle dit non. Hein, ouais. Donc voilà. Et du coup, en fait, justement, ce côté humain, je me dis, dans la vie réelle, les chats, ils sont pas dans... c'est la question que je me pose. Est-ce que dans le monde des chats... est-ce que ce sont les chats, justement, qui dominent sur les chattes? Et, par exemple, à un moment donné, il y a le chef du gang qui dit « pas touche à nos femelles ». Et est-ce qu'il y a ça? Voilà, il y en a qu'une déjà, en plus. Est-ce qu'il y a ça, justement, dans le monde des chats? Ou est-ce que c'est vraiment un truc que humain? Et une autre chose aussi qui m'a gênée... je fais la liste un petit peu.
Ouais, vas-y.
Une autre chose qui m'a gênée... c'est, justement, en fait... Le héros est présenté un peu comme je mets les pieds dans le plat et en fait vos règles désuètes, c'est de la merde. C'est un peu le propos. Et en fait, un truc que j'ai interprété comme ça, sans le vouloir, mais enfin inconsciemment, c'est que le chef du gang, il dit, une des règles, c'est que t'as pas touche à nos femelles. Et vers la fin du tome, je sais plus comment c'est tourné, je me souviens plus de la phrase exactement, mais en gros, le héros, il est là en mode... Ouais, le fait de pas faire ça, le fait de pas toucher à tes femelles, la vie c'est pour être à 100 à l'heure et tout ça. Et en fait, je suis là en train de me dire, mais en fait, le fait que t'aies pas le droit de toucher à la femelle, c'est pas parce que le chef de gang l'a dit, c'est parce qu'elle a dit non. Et en fait, j'ai eu cette impression de, ouais, mais attends, il pourrait quand même faire ça avec la meuf parce que lui, il a le sens de la liberté. Je sais pas, ça m'a gêné, ouais. Quoi.
À voir sur la suite, après, ça reste quand même un tome. Je pense juste pour commencer qu'on peut... En fait, il faudrait différencier leur première rencontre et le reste de ce qui se passe avec. Parce que la première rencontre, pour moi, ça fait très chat, justement. Genre, le chat arrive, il voit une femelle, il saute vite fait dessus, elle le repousse, il insiste un peu. Genre, je comprends le côté humain qui gêne, je suis assez d'accord avec toi, globalement. Mais à la toute première rencontre, à part le fait que ça faisait un peu cliché drôle, ça m'avait pas étonné tant que ça, en fait. C'est plus après où ça devient problématique. Et actuellement, dans le monde des chats, globalement, si les femelles sont pas en chaleur, je pense que les mâles les touchent pas trop et s'en fichent pas mal, parce que de toute façon... Je vais pas dire le titre, mais je pense que toutes les femelles sont en chaleur au même moment ou à peu de choses près. Du coup, tu peux avoir vraiment un côté cycle et les chats se sautent dessus à certains moments spécialement.
Surtout qu'en plus, ils se sautent dessus pour la reproduction. Donc oui, en fait, tout le côté de « Ah, elle est bonne », en fait, ça n'existe pas en fait, dans la vie des chats. Quoi. Les chats, ils regardent pas une chatte en se disant « Putain, elle est bonne, je vais la sauter ». Donc ils se disent « Je vais la sauter parce qu'il faut faire des enfants, il faut se reproduire
ouais. ».
Donc du coup, justement, le côté... harcèlement de rue qu'il fait, ouais, le mec, je trouve que ça marche pas, quoi.
D'accord.
Vraiment, je trouve que la première fois, ça m'a pas choqué.
Ouais, moi, je trouve qu'au contraire, je trouve que la première fois, c'est vraiment une blague de chat, quoi.
Bah, je suis d'accord avec ça. Pour la première fois, pour la première
après,
fois,
après, c'est juste le côté lourd du furio qui revient tout le temps. Mais après, je trouve qu'on n'est pas assez expert en chat pour le dire. Mais, ouais, mais c'est pour ça si on compare avec les chiens, un chien mâle essaie de te sauter toute l'année. Il n'y a pas de différence, tu vois.
C'est pas faux.
Les chats, genre vraiment, il essaie de te prendre la jambe toute l'année. Donc s'il trouve une femelle qui peut prendre, il le fera. Donc je sais pas du tout pour les chats. Ouais, pour les chiens, c'est le cas. Donc je pense qu'il y a un côté instinct de tu vois une femelle, il y a un trou, tu peux la sauter. Mais pour les chiens, en tout cas, c'est à peu près ça. Quoi. Donc pour les chats, je sais pas. Moi, ça m'a pas choqué.
Elle leur pousse pas plein de fois non plus, en fait. Elle leur pousse 8 fois au début.
Et après,
ouais, elle lui dit non, elle est pas censée lui dire 20 fois non pour
qu'ils prennent. Non, mais c'est des chats.
Côté humain, oui. Ça passe pas. Côté chat, ça passe. Parce que genre, c'est comme, même si ça fait été dommage, genre, ils se voient, ils se tapent dessus vite fait. Genre, chez mes parents, quand je ramène mon chat chez mes parents, c'est, ils se frivolisent parce que c'est un mâle, une femelle, c'est des cons, c'est des chats. Mais genre, ils jouent vite fait et après, ça va mieux, tu vois.
C'est comme ce que tu dis, côté chat, ça passe. Côté humain, ça passe moins.
Ouais, mais c'est des chats. Moi, j'aime bien, c'est que juste après, à chaque fois qu'il fait ça, elle le tabasse.
Déjà, ouais.
Bah, oui, c'est vrai.
Elle le prend en arrière et elle le vend. Et on voit là en plus sa forme chat. Donc ça nous explique bien.
Mais ouais. Tu vois les deux, ce qu'il fait plusieurs fois.
Ouais, mais à chaque fois, on voit la pose avec le chat quand elle le tabasse. C'est pas l'humain coup en humain. À chaque fois, c'est on a les deux chats qui se fight. Et clairement, c'est elle qui lui fait une prise de catch et elle l'étrangle ou autre. Donc moi, je trouve que c'est assez ok. Et en plus, j'ai lu pas mal de Furio. Et en fait, j'ai jamais vu une femme aussi justement en mode objet de non justement en mode objet de chasse. Généralement soit il y a pas de femmes dans les furieux, soit elles sont en mode princesse à sauver, mais elles sont pas genre je vais la sauter, tu vois, genre il lui saute dessus, etc. Sauf dans Young GTO, parce que justement c'est pour montrer à quel point les mecs c'est des losers, ils sont envoyés chier H24 quoi. Et là du coup je trouve qu'on le voit plus que pour les autres parce que justement c'est des chats, pas parce que c'est des humains ou parce que ce, voilà. Je pense, après, on s'y connaît pas assez en chat pour estimer. Peut-être que c'est un peu trop redondant. Je sais pas. Après, c'est un personnage qui est relativement important parce qu'effectivement, c'est une femelle qui appartient au gang. Je pense qu'il faut pas dire voir ça comme si elle appartenait
au chat. Pour l'instant, un peu quand même.
Non, pour moi, c'est pas. C'est juste que tous les chats du quartier font partie de ce gang. Ouais. Ils appartiennent tous au gang. C'est pas une question de cette chatte-là spécialement. C'est tous les chats de ce quartier sont dans le gang.
C'est
pas
un appartenir possessif. C'est qu'elle est dans le gang. Mais...
C'est ça, en fait. Elle est au gang. En fait, toutes les femelles de ce quartier sont les possessions dans la mesure où en fait elles sont dans le quartier en fait, par définition. En fait.
Mais c'est pas possession. Enfin, du coup, si on veut essayer de le défendre un peu, ça serait pas une possession, je trouve. Genre, elles appartiennent pas aux gens du gang, elles appartiennent au gang quoi.
Oui, elles appartiennent au quartier en fait, tout court. Ouais. En fait. Et eux, c'est le quartier. Donc pour moi, c'est comme ça, et du coup, elles sont un objet de convoitise pour les ennemis, puisque la reproduction chez les animaux est le truc le plus important, puisque c'est ce qui permet de survivre en tant que clan, quoi.
Après, okay. Je pense à... faudrait voir un peu comment c'est développé sur la suite, parce que là, c'est qu'un seul tome, et il est vraiment ultra court. Et comme dit avant, comme t'as souvent deux situations, vraiment, genre, il se passe... Ah si, il se passe plein de trucs, en fait, d'ailleurs, mais ça, quand même, ça rush de ouf. Ça passe, hein, c'est bien rythmé, mais c'est quand même très très rapide. Donc ouais, à voir comment c'est développé plus tard. Là, le truc, c'est que... Je trouve qu'il y a un peu trop d'insistance, ou un peu cliché, ce qu'on a dit de toute façon avec la femelle qui est... Ça sent un peu trop cliché pour l'instant. Maintenant, c'est un premier tome. Je pense que l'auteur peut aussi juste poser les bases. Il est dans un genre particulier, il respecte ce genre, même s'il joue avec, et à voir où ça ira plus tard.
Ouais, je suis d'accord. À voir, juste pour dire, je l'avais découvert il y a un moment, franchement, je pense un an, peut-être un an de plus.
On a parlé depuis un bon petit moment.
Ouais, chez les gars de Furio
Squad,
donc que je salue. Et qui font un grand taf de ouf pour faire découvrir des mangas furieux. Et du coup, là, je tenais à leur faire un coucou parce que c'est grâce à eux que j'ai acheté et que je connais le manga. Voilà, on va passer à Beastars parce qu'on n'a pas méga le temps si on ne veut pas faire encore 3 heures.
On aura encore des choses à dire, mais c'est pas. Et on n'a pas forcément insisté sur le fait que c'était bien au passage, mais c'est quand même vraiment.
Oui, c'était vraiment. Non, c'est une bonne lecture quand même.
C'est pas genre coup de cœur de ouf pour moi, vraiment.
Non, mais ça se lit bien.
Ça se lit bien.
C'est pas décevant. Enfin.
Avoir du coup avec le tome 2. Moi, le côté chat m'a plu.
Mais histoire de dire juste est-ce que on pense au final, est-ce que plus tard on pense que c'est toujours bien ou est-ce que on pense au
oui, voilà, on en reparlera.
Les problèmes du début sont toujours là ou autre.
Mais voilà. Son tome 2 va pas arriver avant 2 mois, je pense.
Ça dépend sur quel rythme. C'est fini, donc en fait,
c'est si, au moins deux mois. En termes de vente, tu peux pas le sortir.
Et je pense qu'on peut surtout parler de la suite.
Oui, donc on va parler de. D'un manga qui est méga connu, même s'il débute.
C'est le précédent coup de cœur de Flo dans l'épisode d'avant, du coup.
J'avais parlé de l'anime parce qu'il venait de finir Beastars. Donc...
Finir ou juste la saison?
Oui, la saison venait de finir.
Oui, parce que je pense que vu que le manga n'est pas fini.
Ah oh, oui, bon, alors là, t'es tranquille sur l'anime. Cool. Attends. Donc, c'est par Paru Itagaki, qui est une femme.
C'est ça. C'est traduit par Anne-Sophie Thévenon. Et c'est publié en VF chez Kiyun. Ça existe en VO depuis 2016, il y a actuellement 15 tomes. En VF, je crois qu'on a, donc, on disait tout à l'heure, 8 tomes, un truc du style. À rattraper. Vas-y.
Voilà, pour faire très simple, c'est un univers zoomorphe.
Alors, tu avais dit anthropomorphe, en fait,
des animaux anthropomorphiques. Oui. Ou des... Non, c'est vraiment ça, parce que c'est des animaux.
Anthropomorphes ou anthropomorphiques, au anthropomorphe, choix, je pense. De l'auditeur.
En gros, donc, c'est un monde, je le répète, mais en fait, je l'ai déjà présenté la dernière fois, mais voilà. Donc, c'est un monde où les animaux se sont pacifiés.
Alors, tous, on sait pas, en fait. On sait que dans cette école-université, c'est le cas.
Dans le monde, plus ou moins, parce qu'ils ont créé des classes, etc., et on nous a jamais parlé d'un autre endroit.
Probablement, mais au pire, on peut quand même... Enfin, du coup, en ayant lu que deux tomes, ce qui est moins que ce que tu as vu en anime, je dirais qu'on est sûr qu'il y a une université où il se passe ça.
Oui, et on voit la ville et tout, après, je le dis. En gros, le marché noir... je spoil vite fait. Le marché noir est un endroit où on peut encore trouver des aliments... d'herbivore.
En fait, même dans le tome 2, par exemple, on voit du sang de lapin.
Dans le tome 1.
Non, c'est à la fin du
c'est
tome
2. C'est le tome
2,
ça.
Le excuse-moi, oui, oui, on a déjà lu le tome.
Fait, c'est
évidemment. Donc, voilà, c'est l'histoire d'un loup, Legoshi, qui est timide.
Et qui lutte contre sa nature tout le temps, mais pas forcément volontairement, en fait. Il a pas envie d'être fort.
C'est ça.
Parce que c'est pas forcément facile d'être fort dans ce monde-là, et qui fait partie des grands carnivores.
C'est ça, il fait partie des plus grands carnivores actuellement,
dans
presque.
Réalité, il y a dans leur monde, clairement.
Dans leur monde, à part les ours, il y a très peu de...
Tu vois des ours, tigres, lions, je sais plus. Tu vois des gros félins, mais en gros, ils sont à la même taille, voire presque plus petits.
Ouais, les lions ont une importance vraiment importante plus loin dans le manga, donc on en reparlera.
Bah là, on est sûr qu'il y a au moins un tigre qui est important.
Et on voit un lion dans un des exemples, où c'est dans un des bonus à la fin du tome, je sais plus. Okay. Mais donc voilà, c'est Legoshi, il va au lycée, et l'histoire commence, il y a eu un meurtre d'un herbivore. Tout le monde suspecte un des carnivores du coup de l'école.
On a pas de preuve pour l'instant, mais on voit
dans le flashback, on voit le meurtre et on sait que c'est un.
Ça ressemble d'ailleurs à Legoshi, ce qui est volontaire pour que le lecteur puisse.
Oui, c'est vrai, c'est volontaire, mais du coup, moi je sais pas si. Parce que moi, à vous entendre. À vous entendre, on dirait déjà qu'on sait qui c'est.
Moi non. Ah non, du tout. Non, mais moi je le sais pas. Enfin, à ce moment-là. Juste, on suspecte. Un camarade, clairement, puisque le nom du mouton qui est décédé, dit dans le flashback toi qui nous connais, que je sais pas quoi.
On s'est insinué clairement que c'est quelqu'un de l'école ou quelqu'un que Thème connaît.
Voilà.
Thème qui est un acteur, en fait, on suit des personnages, donc Legoshi et compagnie, qui sont dans le club de théâtre de l'école. Legoshi n'est pas acteur, lui, il est.
L'équipe technique.
Ouais. Et genre, il adore son petit rôle. Il kiffe dans l'équipe technique parce qu'il est discret, mais il travaille bien. Tout le monde reconnaît qu'il travaille bien, etc. Enfin,
voilà.
Là où j'en suis, ça a l'air de bien se passer dans sa vie, même s'il est très solitaire. Mais c'est assez marrant de voir qu'il y a une peur. Parce que je sais pas si t'as fini la présentation globale de l'histoire ou pas.
Oui, je crois que j'ai fait le tour, je l'avais déjà fait la dernière fois. C'est bon,
voilà. Mais du coup, on a donc plein de relations différentes entre les herbies et les carnies. De base, les herbies craignent les carnies. Les carnies sont pas tous menaçants du tout, au contraire. La plupart qu'on voit en fait essaient de s'intégrer et font quasiment constamment des efforts pour s'intégrer, pour être bien sentis. Il y a quand même des herbies qui s'entendent spontanément avec des carnies. D'ailleurs, il y a des amitiés où ça passe très bien et inverse et du coup qui sont critiquées par les autres autour de carnies comme herbie. Du coup, ce qui est clairement, enfin genre, c'est même pas, on peut pas dire que ce soit pas subtil, au contraire, mais tu vois clairement que c'est notre société. Genre, c'est une critique claire et nette de notre société, du racisme, du spécisme en l'occurrence.
On traite du racisme à longueur de temps, du spécisme, mais chez eux c'est le racisme.
Et des pulsions.
Et le truc, c'est justement, c'est assez amusant donc. Donc pour refaire encore un petit résumé, ils sont devenus tous végétariens.
Ils mangent des insectes. Enfin, même,
oui, pas vegan.
Les insectes, ça passe.
Ils mangent des œufs de poule aussi.
Oui, ils mangent des œufs, ouais.
Non, peut-être pas de lait de vache. Mais
non, pas du lait, ouais. Mais par contre, des œufs, oui, c'est sûr. Mmh. Et donc ils ont des compléments alimentaires, etc. pour chaque espèce, chacun son régime particulier.
Ouais. Et truc cool, c'est qu'en fait, deux fois par semaine, deux heures par semaine, je crois. Ah oui. Ils sont obligés d'aller. En fait, dans les sous-sols de l'école, là, il y a des gens, une salle faite par
par les surespèces.
Genre tous les
canidés sont tous dans le même truc. Donc,
Les canidés vont dans une pièce où il y a une lumière artificielle qui
reprend la lune.
C'est ça. Ouais. Du coup, pour qu'ils passent un peu de temps dessous, en fait, c'est pour les aider à lutter contre leur pulsion. Ils vont dans un truc qui leur rappelle vraiment leur habitat naturel pour pouvoir supporter de vivre dans un monde où ils se retiennent un peu tous.
Et du coup, toutes les surespèces ont ça, ils y vont deux fois par semaine. Surtout ça, en fait, on sent que c'est surtout pour les carnivores. Et en fait, ce que je t'allais dire, c'est que...
Qu'ils le prennent pas forcément bien, d'ailleurs. Tous,
non, non, bien sûr, oui, oui. Mais en fait, justement, ce que j'allais dire, c'est que... Donc, on les pousse à être amis, en tout cas, les Herbies et les Carnies. Évidemment, on a créé les lois pour protéger les Herbies, donc on n'a pas le droit de manger des Herbies, en fait.
D'agresser, ils n'ont pas le droit de blesser du tout.
Oui, bien sûr, en fait, on a, en fait, la nourriture humaine, donc du coup, chez eux, animale, n'existe plus. Parce que, justement, on a, pour créer la paix avec les Carnies, on était obligé.
À base animale, tu veux dire.
À base animale, oui. Et du coup, ce qui est assez bizarre, par contre, c'est que, donc, naturellement, tous les Carnies, et même, j'ai envie de dire, toutes les surespèces, mangent entre eux, donc, et même vivent entre eux. Et ça qui est très bizarre, c'est que, par exemple, du coup, la paix va pas jusqu'au bout, quoi. Parce que, par exemple, tous les canidés dorment dans le même dortoir.
Après, je trouve que c'est un truc que j'ai ressenti justement en lisant, et qui, je pense, est une des critiques qui est exprimée, c'est que... Genre c'est en mode, oh, le monde est ouvert, venez tous ensemble, en même temps on n'a pas trop confiance, donc au moins tous les Carnies restent ensemble. Tu sens que leur société est beaucoup plus dure envers les Carnies. Les Herbies n'ont pas forcément la vie facile, on pourrait revenir avec Louis, l'un des personnages principaux du coup. Mais
Non mais oui, clairement mais ouais. En fait, en gros c'est parce que c'est des armes sur pattes.
Mais c'est pas un monde parfait du tout.
Non c'est ça, en fait en gros c'est comme si vous donniez tous des tueurs potentiels. Et que vous les disiez, ils ont encore rien fait, donc ils sont dans le monde, tout le monde est en paix, mais vous savez que c'est des tueurs potentiels, tous. C'est-à-dire que c'est comme si au-dessus de votre tête, vous aviez des numéros, et on sait que vous êtes un tueur potentiel. Mmh. Du coup, on va faire comme si vous étiez quelqu'un de normal, mais tout le temps, on va vous le rappeler, et on va vous dire de faire attention, et on va essayer de vous pacifier à longueur de temps. Ce qui fait qu'effectivement, on peut pas... Enfin, je vais pas commencer à les victimiser, parce que... par définition, en fait, ils n'ont pas une vie différente des autres.
Dans l'histoire, on peut les sentir qu'ils sont victimisés, autant dans la vraie vie, les tueurs vont éviter de
trop. Non, mais même, en fait, je trouve qu'ils n'ont pas de traitement différent des autres, en fait.
Non, mais c'est juste peut-être plus.
Ils ont le même que les autres, mais on sait que ce traitement, à tout le monde, n'existe qu'à cause d'eux, en fait. C'est ça le truc. Parce qu'on n'aurait pas créé autant de règles et de lois s'il n'y avait pas les Carnies, en fait.
Ouais.
Et du coup, on sent qu'il y a cette pression, et on le voit tout le temps. Genre, dès le début, c'est assez exprimé, on voit pas un peu. Donc, il y a effectivement des Carnies qui s'y prêtent. Beaucoup, genre il y a ceux qui font attention à toutes petites Herbies qui passent devant eux, à pas les écraser, etc.
Mais t'as même des petits Carnies, t'as pas juste les espèces différentes, genre herbivores, enfin régime alimentaire, t'as aussi des tailles, genre
oui, bien sûr.
Des très grands Herbies et des très grands petits Carnies, enfin tout ça. Et du coup, ça rajoute une autre dimension des trucs auxquels il faut prêter attention.
Oui, t'as tous par exemple, les tout petits Herbies, ils se sentent vraiment mis de côté et c'est vraiment. Par le coup, je pense, les plus grosses victimes de tout l'univers actuellement. Parce qu'en fait, les très gros Herbies ont beaucoup d'avantages, etc. Ils servent, ils sont utiles en fait, à la société. Par contre, les tout petits Herbies, en fait, ils se sentent comme les nains. C'est plus ou moins l'équivalent du nanisme dans notre monde à nous. Quoi.
Bah, ils font plus l'objet de moquerie et d'ignorance qu'autre chose, en fait.
C'est ça. Donc ça, c'est leur société à eux. Et les gauchis, du coup, est dans la classe puissante.
Dominante,
quoi. Dominante, quoi. Enfin, parce que c'est incarné. Il n'y a pas de classe dominante, mais. Ouais, parce que c'est expliqué plus tard.
Mais s'il y avait de la domination, ce serait presque plus genre Louis, le cerf, par exemple, qui domine l'école en soi.
Mais en fait, c'est lui. Parce qu'il a la classe.
C'est ça.
Mais si tu rends compte, en fait, les personnes les plus importantes, après, c'est toujours des carnies.
D'accord, j'ai pas encore vu ça pour l'instant, je crois.
Bah,
je l'ai pas capté en tout cas.
En fait, dans le ressenti des gens, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'on crée une rivalité, c'est contre les Carnies, etc. T'as l'impression qu'en fait, il y a une sorte de domination où enfin, ce serait une exclusion positive dans ce cas-là, tu vois, si c'était pas des dominants, tu vois.
Bah, du coup, à voir sur la suite, perso.
Ouais, moi, je voir aussi dans la suite, par exemple, des tensions entre Carnies, parce que dans le monde animal. Bah, forcément, même entre carnivores, il y a quand même.
Bah, il y a déjà eu. Genre, t'as une deux, t'as le tigre, j'ai oublié son nom,
qui bat avec. Ah oui, c'est vrai, effectivement.
Ouais, parce qu'ils ont des visions différentes. Genre,
oui, mais c'est parce qu'ils ont des visions différentes et pas parce que forcément c'est leur instinct.
C'est vrai.
Parce que justement, il y a beaucoup la notion d'instinct dans le manga.
Elle est en fond tout le temps, mais elle n'a pas encore été vraiment traitée. Genre, on n'a pas vu, à part les gauchis au début,
bah,
les gens qui ont des problèmes d'instinct.
Oui, mais les gauchis, on a vu justement son problème d'instinct quand il était avec Haru. Parce que du coup, en fait, dans le manga, il y a Haru, un lapin.
Une lapine,
ouais, toute petite. Et en fait, à un moment donné, les gauchis tombent sur elle un peu par hasard. Et en fait, il y a son instinct de prédateur qui...
En pleine nuit,
voilà. Il y a son instinct de prédateur qui, en fait, jaillit, quoi. Et il manque vraiment de la tuer. Et en fait, il ne la tue pas parce qu'il y a quelqu'un qui tombe sur eux et qui, du coup, par le son de sa voix, bah, le sort de sa létanie, en fait. Donc, du coup, il y a l'instinct, en fait, de prédateur versus proie, donc carni versus herbie, mais il n'y a pas encore eu d'instinct entre carnivores eux-mêmes, parce que forcément, les carnivores, quand ils se croisent, il y a aussi des hiérarchies entre animaux, quoi. Donc, j'attends de voir ça.
C'est vrai, et en même temps,
ils n'ont pas l'instinct de se tuer entre eux.
On le voit un peu plus loin, mais en fait, c'est pas tant que ça. Surtout qu'une question de hiérarchie en termes de puissance. C'est pas une question de. Ils ont envie de s'entretuer. C'est une question que de toute façon, ils connaissent leur place. Les tout petits carnivores, ils iront jamais chercher un problème au lion.
Alors, dans la vraie vie, un petit chien, genre un petit chihuahua à la con, il ira toujours gueuler sur un gros saint bernard.
Ouais, parce que justement, dans la vraie vie, il n'y a pas d'intelligence. Alors que là, on parle d'un monde en fait où leurs instincts ne sont pas du tout à. En fait, ils dépassent leur intelligence parfois, comme cette scène de Legoshi et Daru. Mais faut pas comprendre qu'à ce moment-là, ils sont pas intelligents. Par exemple, on a toute une réflexion de Legoshi, alors qu'il est sous instinct, en se disant « Non, mais je peux pas le faire, etc. » ou « J'ai envie. » Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que Haru a ses instincts. Ouais. Et Haru se laisse faire, et elle a envie de mourir, quoi, à ce moment-là. Alors, on sait qu'elle est dépressive.
Haru, je suis très ambigu. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec elle, mais je sais pas du tout où est-ce que ça ira pour l'instant. Parce qu'elle a l'air d'accepter. En fait, on dirait un peu genre... pour avoir regardé Sex Education en fait il y a 2-3 semaines, on dirait beaucoup Maeve par moment qui elle a été shamée, slut shamée à une époque, et du coup elle est rentrée dans le personnage, tu vois, je sais pas en fait si c'est ça ou alors si elle le vit bien depuis le début, tu vois, après, je sais pas où ira le personnage parce que c'est esquissé
on découvre le passé des personnages beaucoup plus loin,
ils ont tous quasiment l'air d'avoir un peu de traumatisme, pas forcément traumatisme, genre ils ont tous des particularités au club de théâtre, surtout
au club théâtre, on explique, oui je l'explique vite fait, au club de théâtre on explique que toutes les personnes qui sont au club de théâtre ont été invitées et recrutées, etc., et qu'en fait c'est une sorte de classe d'élite mais des nuls, des traumatisés de la vie.
Louis, l'un des personnages principaux, qui est genre la grosse star de l'école, qui veut devenir le Beastars.
Ah oui, donc
on n'a pas évoqué pour longtemps, on s'en fout un peu pour l'instant.
On s'en fout un peu. Le Beastars, c'est une personne très influente, etc.
C'est un élève.
Qui a le contrôle sur tout, en fait.
Je suis pas sûr que ce soit un élève, forcément.
Ok, je pense en fait comme les élèves en parlent. Entre eux,
je suis sur la page où ils expliquent le Beastars et je suis pas sûr.
Mais en fait, le Beastars, voilà, il contrôle tout dans l'université et après, ils sont promis à des carrières. Incroyable. C'est ça.
Et donc Louis, le cerf rouge qui est très beau et très, enfin, c'est un animal qui est beau dans la vie. Et là, il est superbe. Mais voilà, Louis, le cerf rouge, du coup, genre, il est ressenti comme étant genre l'une des stars de l'école, prétentieux et autres. Et on sait qu'il a forcément un traumatisme. On en voit un peu des traces. Donc c'est l'acteur principal de la pièce qu'il doit interpréter, Adler. J'ai pas réussi à voir si ça existait en cherchant sur internet. Donc je pense que c'est une pièce fictive.
Ouais, c'est une sorte de Roméo et Juliette un peu différent.
T'as le crâne de ça fait Hamlet un peu avec le crâne tout ça, mais. Mais bref, du coup, il a l'air sûr de lui ou autre, mais tu sais qu'il a forcément un gros traumatisme. Enfin, il a quelque chose qui fait qu'il a été appelé au club de théâtre. Et j'ai bien envie de découvrir ça, lui.
Ouais.
Parce que, autant dans le tome 1, je me disais, enfin, surtout dès qu'on rencontre Louis, il avait l'air d'être juste un gros con.
Un gros connard aussi.
Ouais, qui prenait marrant, de haut les gauchis. Et en fait, Louis, pardon. Parce que c'est clairement,
comme tu veux, je sais pas du tout, en fait, j'ai pas regardé la version japonaise.
Je sais pas comment c'est en japonais, mais le truc, c'est qu'en fait, c'est par rapport au roi français qu'ils l'ont nommé Louis, donc juste il s'appelle Louis, quoi.
Oui, mais est-ce que les Japonais disent pas Louis?
Sans s'en moque, c'est comme Bélou, hein, c'est Bernard Werber, quoi, c'est Bernie.
Oui, bien sûr.
Mais du coup ouais, dès le tome 2 tu vois quand même que Louis est plus profond que ça et que le passage est intéressant, en fait. T'as envie de le suivre malgré son côté de prime abord connard.
C'est ça. Pour en revenir à Haru, moi effectivement c'est un personnage qui m'a beaucoup plu. J'aime bien, en fait, effectivement, cette dualité de, par exemple, à un moment donné, elle est harcelée dans les couloirs de l'école et en fait... Non, mais en fait, elle envoie chier la personne, je sais plus c'était quel animal, mais elle envoie chier, elle dit, en fait, t'as pas de vie, laisse-moi tranquille, quoi.
La lapine, en fait, il y a une lapine qui est une espèce rare,
Et en fait, elle dit, c'est ton mec qui est venu me voir, qui m'a embrassée, et puis bon...
Mais elle s'en cache pas, ni rien, j'aime bien.
Et puis elle lui dit, plutôt que me faire chier, tu devrais t'occuper à garder ton mec,
c'est ça, et en même temps effectivement c'est un personnage qui me plaît beaucoup et j'ai envie de voir effectivement qu'est-ce qu'ils vont créer avec elle, mais moi il y a un truc qui m'a un peu interpellée. Alors peut-être que j'extrapole, je sais pas, c'est une sensation que j'ai ressentie, en fait. Je sais que du coup le manga a aussi une vocation de un peu retranscrire notre société. Vous avez parlé de racisme tout à l'heure, moi il y a, par rapport au terme de instinct et de pulsion. Dans notre société, si on parle de prédateur, bah du coup, et de proie, et de pulsion, il y a le viol, en fait. Et du coup, Forcément, on enseigne beaucoup aux jeunes filles, et moi par exemple, c'est ce qu'on enseignait. Attention, sors pas trop tard dans la rue le soir, machin, tout ça, parce que tu peux tomber sur un homme qui va te violer ou ce genre de truc. Donc du coup, t'as un peu le schéma de l'homme qui peut être un prédateur et la femme qui peut être la proie. Oui, alors pour ceux qui vont faire du Nottleman, oui, tous les hommes ne sont pas des prédateurs. Voilà, je préfère être précise.
Je répondrai moi-même, va te faire enculer à tous ceux qui mettront ça.
Voilà, parce que...
Du coup, je vais lui dire un truc, je suppose. Moi, j'ai envie de les défendre, parce que c'est pas cool de taper toujours sur les hommes.
Va te faire enculer.
Non, totalement d'accord.
Mais voilà, c'est du coup... débile de ça. Voilà, mais voilà, c'est juste que, bon, comme je dis homme prédateur, et les gens, ils vont dire, ah, mais tous les hommes ne sont pas prédateurs, non, mais bon, en fait, voilà... Donc, dans notre société, on considère que, effectivement, l'homme peut être un prédateur et la femme peut être une proie. C'est un peu les cases qui peuvent être créées. Et en fait, du coup, un des trucs qui est utilisé justement pour défendre les hommes qui ont violé, c'est « Oui, mais tu comprends, c'est un homme, il a des pulsions, c'est comme ça, c'est un prédateur » ou ce genre de truc. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de penser, en fait, que quand, par exemple, on parle de pulsion, le fait d'être naturellement fort. Y a beaucoup dans le manga des moments où on dit à l'egoshi de arrêter de prendre sur soi. On dit, ta nature c'est comme ça, il faut arrêter de lutter contre, et au contraire tu serais bien meilleur si tu embrassais ta vraie nature. Et je peux pas m'empêcher de me dire, mais attends, c'est pas beau comme message quand même en fait. C'est parce que du coup, si on part du principe que les hommes, ah oui, effectivement, ils ont des pulsions et du coup, ils peuvent violer des femmes parce que bon, c'est dans leur nature. Bah du coup, si on dit, il faut embrasser ta nature, c'est pas beau comme message.
Je trouve qu'on peut découper ça, comme tout à l'heure, en plusieurs points. Déjà, pour le côté justification du viol, ceux qui disent ça, je crois que c'est... Enfin, ceux qui justifient, genre, c'était un prédateur, il a fait ça, c'est sa nature, j'ai l'impression que c'est plus les herbivores, mais en gros, comme dans la vraie vie. Genre, la femme a été violée, on aura tendance à dire, ouais, mais bon, t'as vu comment t'étais habillée aussi, puis... Je veux dire, tu l'as cherché, et c'est un peu, tu vois, c'est les connards qui disent ça, et là, c'est pareil.
Oui, mais Louis aussi. Ah oui, mais Louis est un herbivore. Non, c'est pas le même point
de vue. Et en fait, justement, pour revenir à ce truc, donc déjà, dans l'anime, la scène est encore plus forte sur Haru. Enfin, le Legoshi Haru. Ouais, vraiment beaucoup plus forte, et c'est clairement un viol métaphorique. Genre, clairement un viol. Genre, il y a pas autant. Et en plus, ah oui, elle est méga, méga blessée dans l'anime. Genre, vraiment, on voit la déchirure avec le sang qui gicle et tout, tu vois. Genre, donc, du coup, on sent le début d'un viol. Mm-hmm. Et justement, c'est toute la critique de Beastars. C'est on excuse les carnivores parce qu'ils ont un instinct. Legoshi, de base, est quelqu'un qui ne veut pas succomber à ses instincts. C'est un peu. Tu vois, je te disais hors enregistrement. Je disais que c'est le mâle blanc qui combat ce qu'on lui a appris.
Oui, mais justement, du coup, ça veut dire qu'on part du principe mais que justement. Les hommes ont des pulsions et que c'est dans leur nature et qu'ils doivent lutter contre leur nature. Tout le monde alors dit... que ça n'existe pas,
oui,
ça.
Oui, mais dans la vraie vie, en gros, ce qu'on dit, c'est les hommes ont des pulsions. C'est totalement faux.
Bah oui, c'est faux.
Et bah justement, là aussi, c'est faux. Justement, et le truc, c'est que Legoshi, tout le but de la série, c'est que Legoshi prouve aux autres carnivores que c'est de la merde. Puisqu'en gros, on va dire pendant. Bah là, vous l'avez déjà vu, dans les deux tomes, on lui a dit. Bon bah non, il pourrait pas être ami avec un petit lapin, c'est impossible. Parce que sinon il le boufferait, violent, tu vois. Et lui, il a l'instinct qui lui dit, bah bouffe-le. Parce que là, par contre, c'est un animal quand même, faut qu'il ait des instincts. Mais en fait, en vrai,
bah, c'est plus genre
je vous spoil, c'est l'héroïne. Hein, donc il y a forcément un truc, il y a forcément un truc qui se crée entre eux. Et c'est là tout le truc, c'est qu'ils peuvent avoir une relation. Et toute l'histoire de Beastars va être de prouver qu'ils peuvent avoir une relation. Et du coup, de prouver, et vous allez voir qu'il y a un personnage plus tard, qui vraiment martèle le truc, c'est une sorte de vieux qui va marteler le truc en mode c'est impossible. J'ai de l'expérience, il est méga vieux, j'ai de l'expérience, je peux te dire que c'est impossible qu'un jour tu le boufferas. Et tout le truc du Legoshi, c'est bah oui, il a raison. Donc il va être en mode méga bad de ouf, vouloir ignorer, annuler, etc. Bref. Et en fait, tout le truc de Beastar, c'est de prouver que c'est faux. De prouver instinct ou pas instinct, bon là c'est un. Forcément, tu peux pas exactement dire que c'est la vie réelle parce qu'il y a quand même l'instinct animal.
C'est assez difficile de le lire littéralement en reliant tout à la vie réelle. Pour l'instant, en tout cas pour moi, il y a vraiment. Ben, il y a des fois où le viol était évident, mais il y a des fois où j'essaye de justement de pas essayer de le relier à la réalité parce que j'arrive pas à le percevoir comme ça et je préfère essayer de rester dans l'ambiance globale, quitte à y réfléchir plus.
Je pense qu'il faut pas associer exactement littéralement les deux trucs. Je pense juste qu'il faut associer le discours.
Tout à fait.
Le discours, c'est t'es un homme, enfin, ou là t'es un loup. Donc t'as des pulsions, et c'est tout. Ce qui est le discours de tous les humains actuellement pour excuser les viols, etc. C'est genre le « Ah bah non, mais c'est un homme. » Je fais « Bah non, c'est pas un homme, c'est un prédateur. » Et tu vois, c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, eux, c'est pas des prédateurs dans ce monde.
Ce sont des carnivores.
Ce sont des carnivores. Ouais. Ils ont un régime spécial.
Ils sont considérés comme
prédateurs. Mais ce sont des animaux comme nous. C'est un monde en paix, donc tout le monde est égaux. Oui. Tu vois, donc c'est plus des prédateurs.
Parce qu'on les présente comme forts, et du coup, s'il y a des forts, il y a des faibles.
Ils sont forts, oui. Physiquement, tu vois. Physiquement,
après, ouais. Ça aussi, tu le retrouves un peu dans la vraie vie, il y a des différences.
Oui, oui, c'est sûr.
Oui, mais en fait, le truc, c'est que tout le discours du César, c'est genre, eux, c'est des prédateurs. Non, ce ne sont pas des prédateurs, ce sont des carnivores. Donc c'est comme nous, on est des hommes parce qu'on a des testicules, tu vois, c'est exactement ça, tu vois. Et en fait, on n'est pas des prédateurs.
C'est ça la différence.
Et ben oui, c'est ça. En tout cas, pas pour tous, d'ailleurs, je veux pas généraliser. Mais du coup, voilà, c'est pas des prédateurs, et lui, son truc, tout le concept de Beastars, c'est de dire, c'est pas des prédateurs, et d'ailleurs, c'est pas des victimes aussi.
Oui,
d'autre côté aussi, les femmes ne sont pas des victimes et les herbivores ne sont pas des victimes des prédateurs.
Bah, la preuve avec Louis par exemple, qui lui se laisse pas faire.
Tout le combat de Louis et pourquoi il a la haine, je vais reprendre juste ton truc. Et en fait, si Louis est aussi intéressant et d'ailleurs qu'il a le discours de l'égoshi libère tes instincts.
Alors d'ailleurs, juste, c'est que plusieurs personnes disent à l'égoshi libère tes instincts, tous le font pour des raisons différentes. Et je voulais parler de Louis qui est très
en fait, Louis le fait pour une raison bien précise, c'est que lui, toute sa vie, il combat ses instincts d'herbivore pour devenir un dominant et une star.
C'est, au-delà des instincts, c'est plus que Louis fait des efforts pour ne pas être vu comme une proie par qui que ce soit.
Oui, c'est ça. Bah, oui, il fait plus que des efforts.
Et donc, du coup, on considère bien que herbivore égale proie et prédateur égale carnie.
Leur monde considère, leur société considère ça.
Non, pas même pas leur société. C'est une sorte de vieille tradition.
Oui, mais je veux dire, c'est aussi con que de considérer ici que la femme est une proie par rapport à l'homme, tu vois.
Non,
c'est,
genre, c'est pas...
un problème de d'esprit, mais
c'est
pas
normal. Non, c'est pas une question de on considère ou on considère pas, c'est une question que on refait regarder les faits. Dans les faits, effectivement, c'est les carnivores qui vont bouffer des herbies. Et dans les faits, c'est plus les hommes qui veulent les femmes.
Mais c'est pareil, du coup. Mais du coup, c'est juste parce que ce sont les actes.
Et c'est pas... Oui.
Mais c'est pas une, un, fait,
oui,
un
mais,
état de fait.
Oui, mais, discours, oui, mais du coup, ça veut dire que si tu regardes les faits, bah, en règle générale, enfin, pas en règle générale, mais si tu regardes les faits, un carnivore peut devenir un prédateur et un herbivore peut devenir une proie.
Bah, comme les hommes peuvent devenir
une proie. Voilà, mais donc du coup, c'est une réalité.
Oui.
Et du coup, c'est pas...
Ça veut dire qu'il y a quand même... Ça veut bien dire qu'il y a quand même cette dualité de... Enfin, on peut pas dire que c'est un monde en paix, puisque
non,
du coup, il y a bien
bah
le côté
si,
de prédateur-proie, puisque
paix,
il peut y avoir ça.
Nous, tu sors du jour demain, tu vas te faire violer.
Oui.
Donc notre monde est bien en paix.
Oui, d'accord.
Et là d'ailleurs, leur, ils disent bien, il n'y a jamais de meurtre.
C'est pour ça que c'est très
oui,
étonnant.
C'est pour ça
d'ailleurs, il y a plus de viols dans la vraie vie que de meurtres, a priori, dans Beastars, tu vois. Donc c'est bien que... En fait, c'est juste une vieille tradition. Les herbivores en fait vont toujours détester ou craindre ou avoir peur
par
ou
détester,
tu vois, juste de racisme pur et dur en fait, juste parce que ce sont les prédateurs, ils ont peur. Et en fait, les femmes n'auront
même
jamais confiance en un homme a priori dans le monde réel, c'est un peu pareil, tu vois. Enfin, d'ailleurs, je pense que encore une fois, on est beaucoup moins finalement dichotomique que Beastars.
Ouais, c'est vrai.
Il y a beaucoup moins de femmes qui ont peur des hommes dans la vie réelle que dans Beastars.
En tout cas, pas de façon aussi flagrante.
C'est ça, oui. Alors que là, vraiment, c'est genre, non, herbivore, jamais j'irai en 1v1, tu vois, le soir.
Les trois quarts des herbivores flippent pas.
Ouais, voilà.
Ou alors, en tout cas, même ceux qui flippent pas, on leur dit, tu devrais vraiment faire attention.
On est post-meurtre, donc le point de vue sont peut-être un peu brouillé, mais globalement.
Je suis même pas sûr que ce soit une.
Ouais, clairement, il.
Un
moment, bah, d'ailleurs, il accompagne la mouton. Non, c'est pas un mouton, mais. Une alpaga.
Thème, qui est mort au début. Ce qu'on apprend, genre, c'est un peu l'intrigue du premier chapitre. Tout le monde flippe sur l'Egoshi parce qu'il a l'air bizarre, mais en fait, l'Egoshi était un ami de Thème. Mais du coup, il se voyait pas genre, au grand jour parce que, à cause des histoires toujours de relations entre Herbie et Carnie. Et du coup, tu voulais parler de la femelle.
Ouais, ouais, en fait, il accompagne une alpaga à un moment et on a une réflexion, je sais plus de qui ou de quoi, qui dit en gros, on devrait pas traîner le soir tous les deux, quoi. Mmh. Et c'est bon pour personne et en plus, c'est dangereux, quoi, même pour l'alpaga, quoi. Ah non, c'est quelqu'un qui dit, genre, en gros, c'est pas possible qu'elle ait traîné avec lui le soir,
ouais.
Ou un truc comme
exact.
Ça. Parce que, ça se fait pas. Et c'est comme nous, en fait, on dirait une fille qui connaît pas un mec, traîne le soir ensemble la nuit, tu vois.
Ah, t'as plein de gens qui pensent que les relations hommes-femmes ne peuvent pas exister en
exactement.
Amitié, par exemple.
Donc, ouais. Donc, c'est vachement bien. Et pour revenir sur Louis, du coup, il fait beaucoup d'efforts pour justement ne pas être une victime, qu'on dise pas que. Il a réussi parce qu'il est favori, etc. Il veut être le meilleur partout pour dire parce les carnivores, ils sont pas supérieurs à moi. Je ne suis pas une victime, je ne suis pas un herbie, je suis moi. Et Louis, je suis le meilleur. Et voilà quoi. Et c'est pour ça qu'il veut être le Beastar.
C'est pour ça qu'il rage en voyant l'Egoshi qui, dans leur monde à eux,
voilà.
A un potentiel de force énorme et qu'il n'utilise pas. Il est doux au possible, l'Egoshi. En fait.
Il déteste pas, mais il trouve l'Egoshi énervant.
Il
mais
il a
parce
l'air d'avoir de l'admiration pour lui.
En fait, il le trouve méga énervant parce que l'Egoshi, du coup, ne veut pas être ce qu'il est.
Il veut pas être supérieur.
Et au contraire, il veut être inférieur à ce qu'il est. Il veut pas être fort alors qu'il l'est, de base. L'Egoshi préfère être faible qu'être fort parce qu'il veut pas être effrayant. Il veut pas non plus représenter le mal ou le canidé, parce qu'il sait que c'est effrayant, etc. Les gauchis, en fait, il est tout le temps renfermé sur ses sentiments. Alors que Louis lui dit, non mais tu es un loup, que tu le veuilles ou non. Et en fait, ça l'énerve, parce que lui, justement, ne veut pas être simplement un cerf. Et en même temps, il l'assume pleinement, alors que le loup, lui, veut cacher qu'il est un loup. Et...
Ouais, c'est quasiment la même chose. Enfin, t'as le parallèle énorme entre les deux pour l'instant, c'est que genre les gauchis veut aussi genre être ce qu'il est indépendamment de, enfin il veut être quelqu'un indépendamment de son espèce, de sa classe sociale.
Oui, non, mais en fait les deux sont assez proches en fait.
Tout à fait.
Totalement. Sauf qu'il y en a un qui veut se surpasser et l'autre au contraire qui veut être inférieur à ce qu'il est parce que
il veut être juste
ce qu'il
normal,
est en fait peur.
Hein. Bah, mais justement normalement on ne devrait pas dire inférieur puisque les herbivores sont pas censés être inférieurs.
Oui, mais dans la point de vue des gens qui pensent au loup. Oui. Tout le monde les pense effrayants et trop forts, etc., etc.
C'est vraiment pas le point de vue de l'auteur, je pense. C'est le point de vue de la société.
C'est la société qu'il a dessinée.
Et c'est la même chose dans la réalité, si on veut essayer de dresser un parallèle avec homme-femme. Genre, il y a... Enfin,
bah si, la société dessine l'homme comme plus fort, dominant, etc.
C'est ça. Et, on parlait des Césars.
Même sans parler...
magnifique.
Oui, sans faire de parallèle avec une actualité dégueulasse.
Je vais revenir sur un truc que j'ai adoré, c'est le visuel.
Ah oui,
ah
genre,
oui.
Putain,
c'est incroyable.
T'as un côté très... surtout au début, dès le tome 2, la fin du tome 2, ça a déjà changé. Mais genre, t'as un côté un peu brouillon, genre le mec, limite ouais. Tu peux en croire qu'il a dessiné sur son carnet vite fait.
Madame.
Il y a très peu de... Madame, pardon. T'as très peu de trame. Il y en a quand même, hein, mais globalement, c'est beaucoup du crayon, enfin de l'encre, comme ça, on va dire. Et c'est beau. Oh là là, c'est super beau. Particulier comme trait.
Oui.
Mais j'ai adoré. Il y a une personnalité qui est incroyable dans ce trait. Franchement, c'est un des énormes points forts pour moi, même si... La globalité est géniale, mais le trait, quoi. J'ai adoré.
En fait, les animaux sont super humains, quoi.
Ouais, je crois que l'auteur le dit dans ce tome-là. En fin de tome, il y a des fiches perso sur les deux premiers tomes. Une sur
Louis,
une sur Gauchy. Ouais, voilà, les Gauchy et Louis, du coup. Et l'auteur dit qu'il s'est inspiré du visage d'un acteur français, mince, pour les Gauchy. Toi qui l'as sous les yeux.
Ouais, je l'ai.
Ah, il est connu en plus. Claire, et une fois que je l'ai vu, je suis.
Mathieu Almaric.
Ouais. Et quand tu vois la tête de les Gauchy, c'est tellement ça. J'ai vu Mathieu Almaric il y a pas très longtemps dans Le Grand Bain, et genre, il est ultra dépressif dans Haute, et c'est trop ça. Genre, c'est exactement la tête de l'égoïste.
Ouais, c'est super humain, tu vois les sentiments des gens. Je pense à son. Le canidé, là, qui se fait envoyer chier au début, parce qu'il veut prendre la place de
Thème.
De Thème, ouais, et en fait.
Thème, ou un truc comme ça.
Ouais, je sais plus, et il se fait envoyer chier, il est méga haineux et tout, et c'est trop fort, les traits.
Grave.
Et puis Louis.
Louis, il a tellement la classe.
Super. Les yeux de Louis,
il a vraiment
ils sont
la classe.
Beaux. Il a un peu une ramure à géométrie variable. Genre, des fois, elle est fat, des fois, beaucoup moins.
Oui, ils ont rien à faire.
La proportion des personnages hautes est pas toujours respectée. C'est pas non plus Sensei Yagé, mais genre, des fois, ses griffes sont plus grosses que ce qu'il faut, mais c'est plus. C'est un trait qui est. Ça va avec ce qui se passe d'un point de vue sentiment haut. Genre, l'auteur veut mettre l'accent sur un truc, il met l'accent sur un truc. Genre, régulièrement, quand on zoome sur les mains des gauchis, elles sont assez laides, pleines de griffes ou autres. La plupart du temps, tu le remarques à peine, en fait.
Ouais. Oui, c'est quand il veut, par exemple, quand il menace Haru, d'un coup, ses pattes sont énormes, etc. Sa gueule, elle est géante, etc.
Bah, quand Louis lui fait ouvrir la gueule, tu vois... Ah, c'est super
beau
aussi.
Ouais.
On voit les dents, du coup, de l'Egoshi qui sortent, et il y a les reflets... Louis se reflète dans ses dents comme un miroir, c'est super beau. Je sais pas comment il anime. Tu avais dit la dernière fois
qu'il est vraiment beau.
Mais je pense pas qu'il arrive à reproduire le...
Non, c'est vraiment deux choses différentes, comme toujours.
La patte, en fait.
Il y a beaucoup d'aplats, etc.
Mais je sais pas, à part les covers, il n'y a pas de couleur à l'intérieur.
Non.
Il faudrait que je regarde s'il y a plus de dessins de l'autrice visibles.
Ouais, il y en a pas mal.
Bah, il doit y avoir des pages couleurs régulièrement dans les magazines, de toute façon.
Ouais, c'est ça.
Mais franchement, le visuel vaut le coup. Il peut être un petit peu spécial au début et genre, on peut ne pas accrocher. Je comprendrais, hein, même si
notamment les premiers chapitres sur les Gauchis, il est dessiné vraiment.
Il y a beaucoup
de
vide, par exemple. Ouais. Contrairement à Nioh Shadow dont je parlais tout à l'heure, c'est souvent peu rempli, sauf quand c'est un intérêt. Et même. Je crois pas qu'il y ait des cases tout le temps, en fait. Il y a plein de fois où c'est un peu mis dans ma tête, mise en page libre. Ah, en fait, non, c'était dans ma tête. Il y a des cases ouvertes au pire, mais il y a quand même quasiment tout le temps des cases.
Ouais.
Mais c'est vraiment très très beau visuellement, je trouve. Il y a un super travail sur le graphisme. Ça fait longtemps que je me suis pas pris une claque. Des mangas beaux, il y en a plein. Je veux dire, c'est pas remettre en question. Il y a plein de mangas beaux avec des traits très différents. Mais là, c'est vraiment la personnalité qu'il y a dans le trait. C'est inimitable. Pour l'instant, en tout cas,
je dirais... Oui, je pense que une grosse partie de son succès, c'est grâce à son trait.
Et c'est mérité.
Ouais.
Voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite de Beastars.
Oui, pareil, c'est pareil.
Je me suis retenu d'acheter les deux autres tomes après avoir lu. Enfin, d'acheter la suite
vous en
après
parlera,
ça.
On en reparlera, prochaine émission.
Peut-être pas prochaine, du coup, mais. Gros coup de cœur. Franchement, alors à la merci fin, Flo. Très belle lecture.
Pas de souci. Hein. Bon, du coup, il faudrait qu'il fasse une autre adaptation pour que je reparle encore de Beastar la prochaine fois.
En film live, par Disney.
Oh non.
Non, par contre,
qu'ils ont fait avec le Roi
une
Lyon,
version 3D, ce serait bien possible qu'on en ait une à un moment. Ouais, ce serait pas... Enfin, je suis pas fan de personne, mais... Ouais, en après, ils peuvent faire une version 3D un peu... un peu classique, possible, non? Ah bah,
dans les actualités,
on n'a pas parlé parce que c'est pas le sujet, mais le générique de l'animé est en 3D ou en stop motion.
Un peu à la JoJo, genre un peu
3D. Non, du tout. Okay. En, une sorte de stop motion avec des sortes de pantins. C'est magnifique.
Au pire, on l'adore après.
Ouais. Je vais bien voir ça. Mais je vous conseille, voilà, on va peut-être conclure ici parce que ça fait
déjà beaucoup trop. D'enregistrement, j'espère voilà. Que tu crois que t'es une heure.
Ça oui, bien sûr, on va faire ça. Et bah, toutes les fois où vous parlez, en fait, hein, juste désolé.
Sympathique.
Eh oui, mais dans le monde réel, c'est comme ça.
Mais. Bah non.
Alors oui, t'es le plus grand de nous trois, ce qui est pas super dur déjà en soi, mais tu vas quand même te calmer tout de suite.
Excuse-moi, je ne suis pas comme Legoshi. Je suis plutôt le tigre.
Un gros con, ouais, j'avoue, ouais.
Waouh! Et
avec ça tire à balles réelles.
Exactement. Un dernier truc à ajouter, vous deux?
Bah, vivement la suite. Je pense qu'on pourrait refaire ce format assez plus facilement en fait. Enfin, si on a réussi à les battre, comme ça. Mais ça serait bien qu'on finisse par trouver un truc sur lequel on n'est pas d'accord. Vraiment pas d'accord.
Ouais.
Mais c'était sympa, je trouve. Je sais pas, ouais, du coup, si on continuera à faire des reviews sur les mêmes séries tout le temps, parce qu'il y aura pas possibilité, mais on essaiera de redécouvrir d'autres nouvelles choses.
Ouais, je pense qu'il faudrait que...
Il faudrait que vous lisiez Diaoy
aussi, comme ça. Là, on pourrait vraiment débattre.
Pour la science, vraiment... peut-être qu'on pourrait faire une fois.
Donc. Pour la science, peut-être qu'on lira Diaoy la prochaine fois.
On prend notre bassine pour vomir si nécessaire, voilà. Côté, c'est tout.
Il y en a qui sont bien quand même, juste... Il y en a des bons.
J'en doute pas.
Il y en a des bons.
Du coup, voilà. Dites-nous quelle version vous avez préférée. Je préfère un gros thème avec débat et beaucoup d'arguments. Enfin, d'arguments, peut-être pas. ou alors, voilà, juste de la review de manga en commun. Dites-nous. Et,
on essaiera de faire plus court la prochaine fois.
Voilà, encore une fois, on essaiera de faire plus court. On a déjà réduit.
On a quand même fait plus court que la dernière fois.
On essaiera à la suite. Dites-nous aussi si voilà, vous avez des recommandations, etc. Soit de manga, soit de format, soit de thématique, etc. Et on vous dit à bientôt.
Tout à fait.
Ouais. Ciao, ciao.
Ciao.
Bye.